Soft Power, Frédéric Martel. This is why I'm hot. This is why, this is why, this is why I'm hot.
France Culture, bienvenue dans ce magazine des industries culturelles et du numérique Soft Power. C'est la 15e saison de ce magazine, une nouvelle saison qui commence et qui s'accompagne de nouveautés et de changements dans la continuité. Bien sûr, car la radio, c'est la continuité dans le changement. Le magazine de France Culture dédié à l'influence fait peau neuve. Une émission plus longue, tout d'abord, puisque nous serons ensemble désormais chaque dimanche jusqu'à 20h, soit 2 heures d'actualité, d'information, culture, médias numériques et internationales, est toujours en direct. Autre nouveauté, le box-office, une séquence consacrée aux meilleures ventes de livres de jeux vidéo, les meilleures entrées cinéma et le box-office musique, tout ça avec nos partenaires cette année, l'Institut d'études GFK pour les livres et le jeu vidéo, ainsi que pour le cinéma CBO box-office. Nouvelle séquence encore tous les dimanches à 19h30, le village global, un segment consacré à l'international et au débat d'idées ou à la culture, donc dans une perspective globale. Ce soir, ce premier village global suivra le philosophe Gaspard Koenig, qui est parti depuis plusieurs semaines à cheval sur les traces de Montaigne à travers l'Europe. Toujours en route pour 2500 km, il nous rejoindra par téléphone depuis Destinada. Destinada, c'est le nom de sa jument. Enfin, dernière nouveauté de cette 15e saison du magazine des industries culturelles et numériques de France Culture, nous accueillons dans Soft Power Guillaume Herner, dont le podcast Superfail sera diffusé à l'antenne chaque dimanche, donc à 19h45. Et le fail de ce soir, c'est l'application, évidemment, l'application Stop Covid. Voilà pour les nouveautés de cette nouvelle saison 2020 de Soft Power, avec une émission ce soir largement consacrée à l'actualité américaine. Une Amérique divisée, l'Amérique de Trump d'un côté versus l'Amérique californienne de l'autre. L'élection présidentielle américaine aura lieu le 3 novembre, donc dans à peu près 2 mois. Ce sera évidemment l'un des temps forts politiques et internationaux de cet automne et nous vous proposons ce soir d'y consacrer une large partie de cette émission. L'Amérique de Trump d'abord, avec Grégory Phillips, envoyé spécial permanent de Radio France à Washington, qui nous rejoindra par liaison satellite en studio également. Mathieu Magnodex, qui publie à la découverte Génération Ocasio-Cortex les nouveaux activistes américains. Face à l'Amérique Trump, il y a aussi un parti démocrate au taquet, hein, comme on dit familièrement. Joe Biden, avec sa célèbre désormais colistière Kamala Harris, portrait de cette femme noire d'origine mi-jamaïcaine, mi-indienne, et donc aussi asiatique, qui vient justement de Californie. Face à l'Amérique Trump, donc l'Amérique californienne, que nous décrypterons notamment quant à sa puissance d'influence, sa culture, ses médias entre Silicon Valley et Hollywood. Enguerrand Renaud, journaliste au Figaro, nous rejoint pour cette séquence. Bonsoir Enguerrand.
Bonsoir Frédéric.
Bienvenue de retour dans Soft Power.
C'est un grand plaisir.
Infidélité que vous faites à France Info. Emmanuel Paquette, journaliste à l'Express, bienvenue à nouveau pour cette 15e saison.
C'est ça. Bonsoir Frédéric.
Vous avez bien grandi depuis.
Ouais,
je ne dis pas autre chose.
C'est gentil.
Journaliste à l'Express. À l'époque, il était aux Échos. Il a fait plein de journaux, mais il était
pas tant que ça.
Et Zoé Sfès de France Culture. Bonsoir Zoé.
Bonsoir Frédéric.
Vous nous parlerez tout à l'heure du livre, justement, de Mathieu Magnodex.
Effectivement, avec plaisir. Et puis de culture, puisque on aime parler de ça dans Soft Power.
Avec Enguerrand, Emmanuel et Zoé, nous essaierons de comprendre ce décalage, cette opposition, ce hiatus même entre l'Amérique de Trump d'un côté et l'Amérique californienne de l'autre. Si on ajoute l'actualité de la semaine pour commencer cette émission et puis de la musique, il y en aura plus désormais dans Soft Power le dimanche, notamment ce soir avec Calvin Harris ou The Weeknd. Voilà pour le sommaire de ce premier magazine Soft Power de cette 15e saison. L'émission sera réalisée tout au long de l'année par un duo, Perré Legras et Alexa Malka. Ils sont tous les deux là ce soir. Comme quoi c'est une première en régie ce soir, Edouard Rubinstein. Cette émission a été préparée par une large équipe ce soir. David Pata et Nathan Marcel Millet avec pour les réseaux sociaux Nicolas Gastineau. Vous pouvez suivre cette émission sur Twitter au mot-clé Soft Power, sur notre playlist Soft Power de Spotify ainsi que sur Facebook, sur LinkedIn et bien sûr en podcast chaque semaine en vous abonnant gratuitement au podcast sur le site de France Culture, sur iTunes ou sur l'application podcast de votre smartphone. C'est le magazine des industries culturelles et du numérique Soft Power en direct jusqu'à 20h sur France Culture. Vous avez le programme, c'est parti. Liberté, égalité, Beyoncé. Pour commencer cette émission, l'éditorial de Soft Power avec ce soir un coup de cœur et un coup de gueule. Le coup de cœur, c'est, et c'est une valeur sûre, Yoga, le nouveau roman d'Emmanuel Carrère dont tout le monde parle et qui est, au-delà de cette médiatisation, tout simplement un grand et bon livre. C'est même rare de lire un roman aussi personnel, complexe, intelligent et qui ne tourne pas seulement autour du petit nombril de son auteur. Et pourtant, il ne parle que de ça, Emmanuel Carrère, de son nombril, de lui, de sa dépression, de son roman qu'il n'arrive pas à écrire. Finalement, peu de yoga. Mais c'est, j'oserais dire, un nombril collectif, le plus petit commun nombril. On avait aimé Hors d'atteinte sur les jeux d'argent, un roman russe également. Yoga est un autre genre, un autre type de roman de Carrère qui nous rappelle plutôt La Moustache pour son introspection complexe ou par certains côtés Le Royaume, un livre qui parlait des évangiles mais aussi du nombril des hommes. Yoga vient de sortir mercredi, il est publié chez POL. Coup de gueule maintenant, à propos du nouveau film Effacer l'historique, le long métrage français très attendu de Gustave Kerver et Benoît Delépine, avec notamment Blanche Gardin et Denis Podalydès. Déception, grande déception même pour ce film dont la presse parle avec emphase, pour défendre peut-être avec raison le cinéma français, mais que personne ne peut décemment vraiment recommander. L'humour gaulois, pourquoi pas? Mais là, on est dans une sorte d'humour en dessous du niveau de la mer morte. L'histoire est consternante, la mise en scène plate comme les Pays-Bas, le film est condescendant avec les gilets jaunes, sgrogneux sur la question des réseaux sociaux ou les livreurs VTC, ouvrant d'ailleurs ici un débat essentiel pour savoir si les livreurs sociaux ou les livreurs VTC d'Uber Eats ou de Deliveroo vous mangent des frites avant de vous les livrer avec votre hamburger. Question essentielle. On a beau se forcer, le film n'arrive même pas à nous faire rire. Et pourtant, on y allait avec enthousiasme, bon enfant et de bonne humeur. Or, Effacer l'historique est un flop intégral. Et c'est dommage, car un grand acteur comme Podalydès devient médiocre. Une star géniale du stand-up comme Blanche Gardin est ici complètement à côté de son rôle, malgré, je la cite, sa chatte dans le cloud. Misère du cinéma français. On reviendra tout à l'heure dans le box-office, puis dans le débat américain sur la sortie des autres films, Tenet de Christopher Nolan et les X-Men, les Nouveaux Mutants, ou encore Petit Pays, qui n'ont aucun mal à être bien meilleurs. Et si on rêve d'une critique des réseaux sociaux qui n'aura pas de peine à être plus pertinente que celle d'Effacer l'historique, Netflix annonce la sortie le 9 septembre de The Social Dilemma. On peut effacer l'historique et mettre à sa place The Social Dilemma. France Culture, 18h18, l'actualité des industries culturelles et du numérique. Première séquence, premier segment de Soft Power ce soir avec nos chroniqueurs Enguerrand Renaud du Figaro, Emmanuel Paquet de l'Express et Zoé Sfès de France Culture. Plusieurs sujets ce soir avec, pour commencer, Zoé Sfès, Covid.
Ça vous a
Covid.
Tout cet historique.
Et culture.
Oui.
Cinéma et salles. Les salles à la peine, mais aussi quelques espoirs.
Oui, alors c'est une semaine extrêmement importante, hein, celle qui vient de s'écouler, pour deux raisons. D'une part, parce que c'était un peu la semaine du bilan de cet été, puisqu'on est à la rentrée dès lundi, c'est la vraie rentrée, le retour des Parisiens. Il y avait ce bilan de l'été pour la culture et aussi, évidemment, des annonces très attendues qui ont eu lieu par le Premier ministre Jean Castex. Alors, on a parlé effectivement du cinéma, le cinéma qui a repris à peu près à la fin du déconfinement, à l'annonce du déconfinement, en tout cas début juin, et un bilan qui est effectivement extrêmement sombre pour le cinéma français, puisqu'on est sur, en gros, une baisse de fréquentation qui va de 70 à 80%. Beaucoup de salles qui ne survivront pas à cette crise, non seulement à la crise du Covid, mais aussi à cette réouverture dont on dit en off, du côté des exploitants de salles, qu'en réalité, elle n'aurait peut-être pas dû avoir lieu.
On n'aurait pas dû réouvrir, disent plusieurs patrons de salles.
C'est-à-dire que pour plusieurs salles, il a coûté plus cher d'ouvrir que de rester fermé. Certains défendent que symboliquement, il était très important de le faire. D'autres, aujourd'hui, souffrent réellement.
On écoute justement l'annonce du Premier ministre.
Dans le plan de relance, c'est un choix politique. La culture, au sens large, bénéficiera d'une dotation exceptionnelle de 2 milliards d'euros sur les 100 du plan de relance. C'est inédit, ça veut dire que nous pensons...
2 milliards d'euros pour la culture sur les 100 milliards du plan de relance.
Oui, madame.
Le Premier ministre Jean Castex était mercredi chez nos confrères de France Inter pour évoquer donc ce plan de relance qui sera annoncé officiellement le 3 septembre. Sur les 2 milliards d'euros annoncés et alloués à la culture, 432 millions d'euros seraient destinés au spectacle vivant, annoncé ensuite jeudi la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot.
Oui, alors effectivement, c'est très intéressant de regarder comment ces annonces sont intervenues et dans quel sens, parce qu'on a beaucoup parlé du cinéma, mais peu du spectacle vivant. Le spectacle vivant qui, lui aussi, a été très à la peine, puisque toute une foule, évidemment, de concerts, de festivals qui devaient avoir lieu cet été, qui auraient presque pu avoir lieu cet été, puisqu'on était dans une phase de creux du côté du virus, n'ont pas été programmés, ne se sont pas tenus. J'ai assisté à une des rares reprises du théâtre, par exemple à Paris. Il y a eu Wajdi Mouawad qui a réussi à jouer sa pièce Littoral pendant quasiment un mois au moment du déconfinement. Il y avait foule, mais effectivement, peu de théâtres ont eu cette ouverture. On a vu que Roselyne Bachelot a été prise à partie tout au long de l'été par différents artistes, notamment Clara Luciani, qui réagissait à toutes les photos de TGV bondées en se demandant pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas jouer dans des concerts. La reprise de Rock en scène, ce festival qui normalement annonce la rentrée dans des modalités extrêmement étranges, 5000 spectateurs seulement, et effectivement une édition spécialement tournée plutôt pour la télé, puisqu'elle était retransmise sur France 2, posait des vraies questions. Il y a eu donc deux annonces. Une première jeudi par Jean Castex. Jean Castex qui a donc annoncé ses 432 000 euros pour le spectacle vivant. C'est très intéressant de regarder, en petite parenthèse, la manière dont ça a été annoncé. C'est Jean Castex qui fait les annonces, mais c'est Roselyne Bachelot qui précise les chiffres sur son compte Twitter. Il y a, disons, une forme de partage comme ça de l'autorité et du bénéfice des annonces qui marque un petit peu une différence assez ferme avec ce qui s'est passé pendant la crise du Covid entre Emmanuel Macron et Franck Riester. Détail de ces aides, il y a donc 220 millions d'euros qui vont au secteur privé du spectacle vivant et 200 millions qui vont au secteur public et notamment aux opérateurs les plus importants et les plus touchés, parmi eux l'Opéra de Paris qui souffre vraiment, qui est une institution qui pour le moment ne rouvre pas ses portes avant 2021, la Comédie Française, les organismes en région. On affirme, Roselyne Bachelot confirme ces chiffres le soir même, jeudi, et annonce aussi qu'il y a 12 millions d'euros qui, eux, vont aller à l'emploi et aux artistes auteurs du spectacle vivant, qui, contrairement aux intermittents, pour le moment, n'avaient pas fait l'objet de mesures extrêmement précises. À cette somme s'ajoute aussi, et elle le rappelle, un programme exceptionnel de 30 millions d'euros pour la commande artistique, ces 432 millions d'euros dédiés à la Reliance, plus 100 millions d'euros de compensation de perte d'exploitation. Ça fait effectivement, en fait, plus de 500 000 euros d'aide, dont 430 000 euros de relance. Un effort sans précédent que je piloterai pour sauver un secteur dévasté, a tweeté Roselyne Bachelot avec, on peut le dire, un champ lexical extrêmement fort.
Et guerrier
qui, en fait,
même.
Guerrier. Et il faut le dire quand même, dans la salle où Jean Castex a fait ses annonces devant les syndicats, il y avait un vrai soulagement et une majorité des acteurs du secteur estiment qu'ils ont été entendus. Et puis le lendemain, vendredi, donc c'était avant-hier, Jean Castex s'est déplacé au Festival du film d'Angoulême, premier festival de films français qui se tient dans des conditions à peu près normales. On a une 60aine de longs-métrages qui sont attendus, 10 000 spectateurs contre 70 à 80 000 en général les années précédentes. Et donc là, on a une autre annonce qui concerne cette fois le cinéma. Il faut rappeler que le gouvernement, c'était pas encore celui de Jean Castex, avait fait des annonces pour soutenir l'effort des exploitants de salles. Ça, c'était en juin et en juillet. Et là, cette fois-ci, eh bien, il y a des annonces pour le CNC, le Centre National du Cinéma, de l'Image et de l'Animé, qui va voir ses moyens renforcés par l'État de 165 millions d'euros, auxquels vont s'ajouter des financements en faveur des investissements d'avenir. Alors c'est extrêmement important. Pourquoi ? Parce qu'on le sait, le CNC et le système de financement du cinéma français, eh bien, il repose, on l'avait déjà dit, sur le système très joli de l'avance sur recette, qui effectivement, en fait, se base sur la billetterie. Là, en l'occurrence, on a eu 3 mois de trou total et 2 mois d'assez gros trou aussi, puisqu'on l'a dit, il y a 70% de fréquentation en moins. Mais aussi, et ça on le sait moins, parce que si le CNC a si peu de réserves aujourd'hui, n'a pas de trésor de guerre pour éponger cette crise, c'est parce que depuis le début de la décennie 2010, on le sait peu, chaque année où le CNC a été bénéficiaire, en 2011, en 2014, en 2015, eh bien Bercy s'est servi dans ce compte, ce qui fait qu'aujourd'hui il n'y a pas de matelas pour le CNC qui, s'il avait gardé cet argent, peut-être en aurait une. Autre annonce de Jean Castex, et ça c'est une annonce assez attendue, pourquoi ? Parce que la vraie question maintenant, c'est pas uniquement de savoir si on va pouvoir faire des films et les financer, mais c'est surtout de savoir si les gens vont retourner au cinéma. Un sondage paru début août, mais qui avait été, organisé début juin, disait que la moitié des Français ne se sentaient pas de retourner en salle. On va voir si ça peut
changer. C'est un sondage de la revue L'Œil.
Exactement, de la revue L'Œil, mais qui avait été effectué plutôt en juin. On sortait à peine de la crise du Covid. Force est de constater que pour le moment, sur l'été, ça n'a pas été le cas. Les gens ne sont pas retournés au cinéma. Jean Castex a fait des annonces qui sont censées les encourager, les rassurer. L'idée maintenant, c'est que le masque sera obligatoire dans les salles de cinéma. Vous vous asseyez dans la salle et vous gardez votre masque. En revanche, il n'y a plus de distanciation. Distanciation imposée entre les spectateurs. Donc on peut venir à autant qu'on veut, mais on doit garder son masque. Réaction plutôt mitigée du côté des exploitants, c'est-à-dire qu'il y a certains exploitants qui considèrent que ça va dans le bon sens, puisque c'est une manière finalement de rassurer les gens en leur disant qu'ils vont et qu'ils peuvent garder leur masque, que les autres le garderont. D'un autre côté, il y a plusieurs exploitants de salles qui considèrent que c'est loin d'être le problème, puisqu'aujourd'hui, et on l'a encore dit, les salles sont loin d'être pleines de toute façon.
Une réaction peut-être en Enguerrand Renaud du Figaro ?
Oui, c'est une très bonne décision de la part de Jean Castex, puisque le CNC, dès le mois de mars, dès l'annonce du confinement, a dit qu'il allait aider toute la filière du cinéma, à la fois en amont, dans la production, en aval, dans la distribution, et les salles également. Sauf que le problème du CNC, c'est que statutairement, il ne peut pas être en déficit, et vous l'avez dit, il n'a pas beaucoup de réserves, donc il a beaucoup donné pour le cinéma, et donc il a fallu reconstituer ses réserves, et là, c'est l'État qui va le faire. C'est très bien.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
18h26 en direct, Soft Power, le magazine des industries culturelles et du numérique de France Culture. Second sujet d'actualité ce soir avec vous, Emmanuel Paquette, la 5G. La 5G qui fait beaucoup parler, qui effraie parfois avec des questions d'attribution de fréquences, des polémiques, et puis Bouygues qui devrait, voudrait désinstaller des antennes.
Exactement, on en parle depuis un petit moment de cette 5G. Après de multiples reports, finalement, les enchères vont débuter entre le 20 et le 30 septembre prochain, très probablement le 29, c'est la date qui circule, pour en fait des blocs d'enchères. Il y aura 11 blocs qui seront mis aux enchères à partir avec un prix de réserve de 70 millions d'euros pour les 4 opérateurs. Après, libre à eux de surenchérir les uns sur les autres jusqu'à obtenir ces blocs de fréquences nécessaires pour le lancement de la 5G. Alors effectivement, comme vous le disiez aujourd'hui, ça suscite beaucoup d'interrogations, des interrogations concernant la santé, les problèmes que peut avoir ces ondes sur la santé publique, sur l'énergie, la consommation énergétique. Alors jusqu'à présent, le gouvernement était resté assez mute sur ce sujet. Et là, d'un coup, avec ce sujet qui devient politique, puisque aujourd'hui il y a quand même des élus qui demandent un moratoire,
notamment le maire de Grenoble, par
exactement,
exemple.
Bordeaux aussi qui commence à vouloir un moratoire sur la 5G. Là-dessus, le gouvernement a dit, du coup, on va lancer des consultations publiques. Alors c'est un peu à la dernière minute pour le coup, mais il y en a de plus en plus. Il y en a, à ma connaissance, au moins 3, mais il y en a probablement d'autres. Donc le gendarme des télécoms, l'Arcep, qui en a lancé une sur effectivement la consommation énergétique de la 5G et son impact. L'ANSES, donc ça c'est l'organisme de santé, l'Agence nationale de santé, qui va rendre son avis l'année prochaine sur l'implication des fréquences 5G sur le corps humain et sur l'environnement. Et puis la DGCCRF, donc ça c'est la répression des fraudes, pour voir si les forfaits qui vont être mis en place seront abordables et n'auront pas des coûts cachés en fait pour le consommateur. Donc beaucoup d'interrogations, peu de temps derrière les opérateurs qui disent en off, en tout cas, nous on avait prévenu le gouvernement qui n'a jamais rien fait, et d'un coup il se réveille sous un sujet qui devient politique, notamment du côté d'Écologie Les Verts, qui fait monter ce sujet-là. Et du coup, ça devient un sujet de santé publique et nationale, et avec des enjeux nationaux. Et le gouvernement n'a pour l'instant jamais pris la peine de communiquer dessus.
Face à ça, il y a le problème Bouygues, plus particulier, plus technique.
Oui, alors comme si ça ne suffisait pas, il y a un autre sujet de défense et de sécurité nationale, qui est en fait l'équipementier Huawei, qui aujourd'hui équipe majoritairement SFR et Bouygues Télécom. La question était de savoir pour le gouvernement, est-ce qu'il fallait conserver ces équipements 3G, 4G et puis la future 5G pour Huawei. Le gouvernement a mis du temps à trancher, finalement a rendu des autorisations. Bouygues Télécom donc a eu quelques autorisations de déploiement d'antennes 5G, mais tout ça s'est borné dans le temps, c'est-à-dire maximum jusqu'en 2028. Et en 2028, en revanche, après cette date, ils ne vont plus avoir d'antenne Huawei. Donc ils ont déjà essuyé un refus sur 4 villes pour lancer la 5G: Strasbourg, Rennes, Toulouse et Brest. Alors c'est des villes dans lesquelles il y a des choses sensibles. Brest, c'est militaire, on sait qu'il y a beaucoup de choses donc l'industrie militaire y est présente fortement. Toulouse, c'est Airbus, comme chacun le sait. Et puis Rennes, par exemple, il y a un centre cyber offensif avec les militaires qui ont développé un pôle, un cybercampus là-bas. Donc effectivement, c'est des zones sensibles. Ils ne veulent pas que des antennes 5G Huawei, donc chinoises, ne soient déployées sur ces villes-là.
Il va donc falloir les désinstaller.
Voilà, donc Bouygues Télécom a dit que c'était autour de 3000 antennes qu'il fallait désinstaller d'ici 2028. Donc ça lui laisse 8 ans. Alors pour ça, la réponse de Bouygues, elle est simple. Il y a deux volets. Un premier volet en disant, très bien, on est prêt à le faire, mais comme ce n'est pas notre décision, on veut une compensation financière. Donc ils ont entamé des négociations dans ce sens-là avec le gouvernement. Puis de l'autre côté, ce que dit le directeur général de Bouygues, c'est que eh ben, ils utilisent aussi le bâton avec donc le Conseil d'État qui a été saisi à plusieurs reprises pour essayer de faire tomber le procédé, la procédure des enchères qui doit arriver en septembre, en tout cas de l'annuler, et puis d'autres procédures qui sont en cours pour essayer de contraindre le gouvernement à continuer à utiliser Huawei et pas à le restreindre jusqu'en 2028.
Sur cette question, Guérin Renaud.
Je pense qu'on y viendra dans les relations entre les États-Unis et la Chine, mais c'est quand même un des exemples les plus frappants quand même, puisque de toute façon, d'un point de vue technologique, il n'y a pas plus de Huawei n'a pas plus de backdoor, n'espionne pas plus que n'importe quel GAFA américain, et on sait que Microsoft avait effectivement des backdoors, que Cisco, qui est un autre opérateur américain, en a, et Huawei en a finalement moins.
Mais au fond, c'est moins grave si c'est les Américains. Exactement. Que si c'est les Chinois.
Alors, si c'est les Américains qui nous espionnent, c'est pas très grave. Si c'est les Chinois, ça devient grave. La problématique n'est pas celle-là. La problématique n'est pas celle de l'espionnage. La problématique étant que quand on est patron de Bouygues ou quand on est patron d'Orange, qui n'a pas de Huawei, hein, en France, mais qui en a partout en Afrique, on se dit, admettons, ok, on accepte Huawei, mais si dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, peut-être qu'il y a la guerre. Et si Huawei décide, ou le gouvernement chinois décide de dire à Huawei, vous ne maintenez plus vos équipements en France, le réseau télécom tombera. Donc il n'y a, a priori, pas beaucoup de problèmes d'espionnage aujourd'hui. Il y a un risque que personne ne veut prendre. Si on va vers une difficulté, une guerre...
Même une guerre commerciale. Ouais.
Une guerre commerciale contre la Chine, de ne pas être entre les mains de Huawei. Et le gouvernement n'a pas osé le dire lui-même. Il faut quand même bien dire qu'il a fait prendre cette responsabilité par l'ANSSI, qui est l'association de la défense, de la cyberdéfense. C'est-à-dire, c'est une agence gouvernementale, certes, mais ce n'est pas le gouvernement. Donc, contrairement aux Grands-Bretons, aux Anglais qui ont pris cette décision d'interdire Huawei, la France n'a pas osé le faire officiellement.
Zoé 16.
Non, mais effectivement, c'est juste extrêmement intéressant aussi de voir, comme vous l'avez dit Emmanuel, la poussée des Verts fait que la question énergétique, par exemple, qui a vraiment été une des grandes oubliées, on a beaucoup parlé en France de la 5G comme effectivement d'un enjeu de cette guerre commerciale États-Unis-Chinoise, alors qu'il y a vraiment un vrai débat sur la question énergétique qui n'est pas du tout acquis. Et par ailleurs, je me demande si aussi cette réaction politique n'est pas liée au fait que parmi les plus grandes théories du complot qu'on a eues pendant le coronavirus, certaines ou plusieurs étaient liées à l'apparition de la 5G. Vous l'avez certainement vu. Et je pense que ce n'est pas tout à fait étranger au fait que finalement, d'une certaine manière aussi, le gouvernement essaye peut-être de sentir ces questions-là et d'y apporter une réponse potentiellement politique.
À ce point-là, vous dites, il y a même des extrémistes qui ont brûlé beaucoup d'antennes en Grande-Bretagne et certaines en France. Des antennes, je vous rassure, qui n'étaient pas 5G, puisque la 5G n'existe pas encore. Donc ils ont brûlé par anticipation.
Il n'y a même pas des antennes Huawei.
Non, absolument pas. Des antennes 4G, voire 3G, ce qui est extraordinaire.
Autre sujet d'actualité ce soir, l'énigme, parce qu'il faut presque parler d'une énigme, du sphinx Arnaud Lagardère. A-t-il une vision finalement pour l'avenir des médias et de son groupe après, Enguerrand Renaud, un été meurtrier?
Un été extrêmement compliqué, mais ce n'était pas que l'été. Hein. Ça a commencé juste avant le mois de mai, avant cette assemblée
d'ailleurs,
générale.
D'ailleurs, ça vous a fait le confinement plus l'été.
Ah bah moi, je ne me suis pas ennuyé pendant le confinement et pendant l'été. Pour répondre à votre question, a-t-il une vision de ses activités médias? Oui, il n'en a plus, sauf effectivement Europe 1 qui est invendable puisque c'est en perte absolue et il n'y a quasiment plus d'audience. Et puis le JDD.
Plus d'audience, c'est une exagération. Quand
un peu 4,5%.
Oui, enfin, ça fait quand même quelques millions de personnes.
Oui. Sinon, il a vendu tout le reste. Sur son groupe, il a effectivement une vision qui est assez simple. Il y a deux activités. La première activité, c'est l'édition avec Hachette Livre, numéro 3 mondial. Et c'est une activité qui, certes, a souffert pendant le confinement, mais qui est quand même récurrente et qu'on a vu qui est repartie. Et puis, une autre activité qu'on appelle Travel Retail, pour être tout à fait honnête, ce sont les magasins dans les aéroports. Il n'y a plus d'aéroports.
Les gares aussi.
Et dans les gares, il n'y a plus d'aéroports, il n'y a plus de gares. Et là, je vous jure que ça va très très mal. Et ce n'est pas prêt de recommencer. Et donc, il avait une vision stratégique qui, honnêtement, était tout à fait concevable, mais qui, avec le confinement, a fait que il y avait deux piliers, il n'y en a plus qu'un. On a vu les résultats du semestre. Et c'est pas très très bien, il perd beaucoup d'argent, il consomme beaucoup de cash. Donc, il va y avoir une remise en cause très rapide de l'avenir de la gare en septembre.
En tout cas, on rit beaucoup parce que c'est une information qu'on n'attendait pas. Il n'y a plus d'aéroport et plus de gare.
C'est étonnant.
C'est étonnant.
Après, il y a la question des médias.
Alors, et puis surtout d'Hachette.
Les médias, il ne reste plus rien.
Non, mais les médias, on peut inclure alors, là-dedans Hachette Livre.
Hachette Livre.
Alors, avec
Hachette
quand même Livre. Une bataille, parce que disons de, précisément de quoi on parle. Hachette, ouais. C'est à la fois Grasset, Fayard, Kaman Lévy, Stock, Jean-Claude Lattès, Larousse, le livre de poche Hachette Littérature. Ça, c'est un groupe d'une part avec un bras important aux États-Unis, notamment Warner Books et surtout le bijou hein, qui s'appelle Little Brown et compagnie. Donc ça, c'est le grand groupe français face auquel il y en a un autre qui s'appelle Editis. Alors Editis, c'est 52 maisons d'édition, Perrin, First, Robert Laffont, Plon, La Découverte, Julia, Presse de la Cité, XO, Pocket, etc. Et l'une des possibilités, qui n'est pas du tout claire pour l'instant, mais c'est l'entrée ou le rachat éventuel par Bolloré, qui est le patron donc d'Editis, de la partie Hachette Livre, c'est-à-dire donc la création de quelque chose qui est pratiquement le premier groupe mondial de l'édition, avec des problèmes de concentration très forts, et qui affronte à ce moment-là le groupe allemand Bertelsmann, un Français face à un Allemand, si ça devait se faire.
Alors il faut réexpliquer un tout petit peu. Il y a effectivement Hachette Livre, qui est le numéro 3 mondial, qui est très présent en France et qui est aussi présent aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Et en face, il y a Editis, qui appartient à Bolloré, qui est premier actionnaire de la Garnet, puisqu'il a 24% du capital, mais il n'a aucun pouvoir, hein, je vous rassure.
Mais ça, c'est nouveau aussi. Mais ça, voilà, il faut quand même.
Il n'y a pas d'aéroport, il n'y a pas de pouvoir. Non.
Et Editis est numéro 2 français, mais c'est un groupe très puissant, mais franco-français. L'idée, dans l'esprit de Vincent Bolloré, c'est de pouvoir marier les deux. C'est une idée qui avait déjà été testée en 2003, quand Vivendi, souvenez-vous, était en faillite. Et donc, pour se sauver, à l'époque, Vivendi avait voulu vendre sa partie édition qui était déjà Editis, grosso modo, à Lagardère. Lagardère avait dit très bien, ok, je vous le reprends, mais les autorités de la concurrence européenne avaient dit non. Donc, il a fallu séparer. Ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est que les deux groupes sont en concurrence pour racheter un éditeur américain très important qui s'appelle Simon & Schuster et qui vaut à peu près $1 milliard. Et les deux sont en concurrence, c'est très étonnant.
Bien, ben on suivra de toute façon cette saga Lagardère, qui est aussi une saga Editis, et en l'occurrence Hachette, et en l'occurrence Bolloré, donc tout ça dans les semaines à venir dans Soft Power.
Je comprends que personnellement elle soit blessée, indignée. On lui a présenté nos excuses pour cette blessure personnelle, si vous voulez, parce que c'était pas du tout notre objectif. Après, sur le reste, tout ce qu'elle dit est faux, pardonnez-moi, que cette fiction, en fait, avait pour objectif exactement l'inverse de ce qui nous est reproché. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est évidemment extrêmement choquant, parce que ça raconte une réalité qui est extrêmement choquante, qui est celle des atrocités de l'esclavage du XVIIIe siècle, esclavage commis par des Africains sur d'autres Africains, et on a voulu mettre ça en scène pour casser le discours en réalité indigéniste qui est trop largement propagé aujourd'hui en France.
À l'instant, on a donné la parole à Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction du magazine Valeurs Actuelles, qui était hier chez nos confrères de BFM TV, repris par RMC pour revenir sur la polémique liée à la une de l'hebdomadaire où la députée Danielle Obono y est représentée en esclave.
Oui, alors Geoffroy Lejeune, qui, il faut le rappeler, va devenir chroniqueur sur C8, mais vous allez en parler juste après, qui commence cette rentrée avec, je pense on peut le dire, une pluie de condamnations quasi unanimes qui viennent d'à peu près tous les champs, de tout le champ politique.
Oui, de l'extrême gauche jusqu'au président de la République.
Jusqu'au président de la République sur, alors de quoi s'agit-il ?
Un message appelé au téléphone hier, Madame Obono, pour la soutenir.
Exactement. Alors, de quoi on parle ? On parle de cette publication, Valeurs Actuelles, nous avions reçu Geoffroy Lejeune, qui, faut le rappeler, a chuté de plus de 40 000 lecteurs en quelques années, et qui cet été proposait à ses lecteurs des romans-fiction où un personnage de l'actualité contemporaine se retrouvait projeté dans un passé. Alors, on avait eu François Fillon à Révolution, Éric Zemmour à Waterloo, ou Didier Roux dans les tranchées de 1914, et donc ce jeudi 27 août, le 7e épisode de cette série était donc consacré à la députée, je cite, indigéniste de la France insoumise, Danielle Obono, dans un article qui s'appelle Au pays de l'esclavage avec Obono l'Africaine, c'est ainsi qu'elle est citée, qui est dans un village africain d'autrefois en train, je cite, d'expérimenter la responsabilité des Africains dans les horreurs de l'esclavage. Il y a évidemment des dessins qui accompagnent ce roman fiction signé par un anonyme, un auteur anonyme dont Geoffroy Lejeune continue de dire qu'il assume en tout cas cette publication et qu'il ne dévoilera pas son identité, avec ce dessin donc où la députée, très concrètement reconnaissable, est représentée en esclave, littéralement enchaînée par le cou. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, si ce n'est que tout dans cet article est problématique, évidemment de l'illustration au texte, mais surtout au projet, puisque le projet, on l'a bien entendu, c'est un projet qui consiste, et c'est un terme que Geoffroy Lejeune et toute une partie d'extrême droite affectionnent aujourd'hui, qui consiste à contrer, je cite, l'ensauvagement, qui est un concept qui est repris plusieurs fois dans cet article, et qui vise, d'une certaine manière, à exonérer les Européens de la responsabilité majeure de la traite transatlantique négrière, avec, alors je vous passe les représentations misérabilistes des Noirs, des femmes qui ont des lèvres écartelées, et puis surtout l'issue heureuse, hein, puisque à la fin c'est Daniel Obolo qui est sauvé par un chrétien français au nom du message chrétien de la France, qui est compliqué quand on connaît la position et de l'Église et des différents acteurs politiques chrétiens sur cette histoire. L'idée surtout, c'est d'avoir cette espèce de roman fiction. On a un texte extrêmement étrange publié donc par le journal ce vendredi, qui à la fois revendique l'objet et le dessin, le projet de cet article, tout en s'excusant personnellement auprès de Daniel Obono. Donc on a effectivement une espèce de hiatus, et qui rappelle donc qu'il y a eu François Fillon au temps de la Révolution, Éric Zemmour à Waterloo, Didier Raoult dans les tranchées de 1914. On pourra quand même opposer à Geoffrey Lejeune que tous les personnages suscités d'une part ne sont pas des cibles objectives du journal, contrairement à Daniel Obono, et qui ne sont jamais représentés, on va dire, dans une position de soumission tout au cours de ces romans fiction. Geoffroy Lejeune, qui donc est aujourd'hui clairement, on va le dire, contesté. Il y a deux appels à manifestation qui ont été lancés, l'un par la fondation Frantz Fanon, et puis on a appris tout à l'heure que plusieurs manifestants, plusieurs militants ont essayé de s'infiltrer dans les locaux de Valeurs Actuelles ce dimanche après-midi, en début d'après-midi.
France Culture, 18h42. À suivre dans Soft Power, l'Amérique divisée, l'Amérique de Trump versus l'Amérique californienne. C'est le sujet principal de cette émission ce soir. Mais juste avant, et pour clore cette séquence d'actualité de la semaine, voici le box-office. Le box-office est une nouvelle séquence hebdomadaire qui sera proposée chaque dimanche vers 18h40-42 et qui est réalisée avec nos partenaires, l'Institut d'études JFK pour les ventes de livres et de jeux vidéo et CBO box-office pour le cinéma. En attendant les détails de ces chiffres, voici un peu ce qu'on peut dire ce soir. Alors d'abord, Yoga d'Emmanuel Carrère, qui ne devrait pas apparaître, qui n'apparaît pas encore dans les meilleures ventes livres JFK, parce que ce sera la semaine prochaine. Le livre est sorti seulement ce mercredi. En attendant donc ce livre, le palmarès de ce week-end fait encore une belle place aux auteurs, disons, mainstream de l'été. Amélie Nothomb est en tête des ventes avec son roman Les Aérostats. On trouve également dans les meilleures ventes de la semaine Joël Dicker, Guillaume Musso, Virginie Grimaldi ou Elena Ferrante, bref, des valeurs sûres et grand public. Côté non-fiction, c'est le premier tome des mémoires récits de Nicolas Sarkozy, Le Temps des Tempêtes, qui arrive en tête des ventes. A signaler également 4 Sylvain Tesson, tous classés d'ailleurs en non-fiction, alors qu'on le connaît aussi pour faire des romans. 4 de ses livres, donc, qui arrivent dans les meilleures ventes. Un record, on peut faire ici l'hypothèse que le succès de La Panthère des Neiges a incité les lecteurs à lire d'autres livres de Sylvain Tesson, Sur les chemins noirs, Dans les forêts de Sibérie et Un été avec Homer sont dans les meilleures ventes de cette semaine. Tesson, qui vient d'ailleurs de signer la série Un été avec Rimbaud chez nos confrères de France Inter, une série dont on vous propose d'ailleurs la critique minutieuse sur le site de France Culture, le titre de l'article Un automne avec Rimbaud. On vous le tweete d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Côté cinéma, on peut supposer, à partir de données exploitant, que c'est le film de Christopher Nolan, Tenet, qui arrive en tête du box-office cette semaine. Mais fait unique dans l'histoire récente d'Hollywood, les studios Warner nous interdisent de communiquer les données du premier week-end en guerre, Renaud.
Oui, alors j'ai regardé sur Mojo Box Office, qui est un site de IMDb. Alors, pour faire court, on va vers la catastrophe industrielle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sortie américaine, puisque ça va sortir le 3 septembre, il y a une sortie internationale, et donc au bout de quelques jours d'exploitation, il n'y aurait moins d'un million de dollars de box-office sur Tenet.
Alors ce qu'on peut dire simplement, c'est que le film est sorti massivement sur 675 écrans en France. En réalité, tous les films sont derrière et médiocres. Démarrage médiocre pour effacer l'historique, fait 32 000 entrées seulement mercredi, à peu près égalité avec les nouveaux mutants dérivés des X-Men de Disney, Fox, Marvel. Ça montre et ça confirme un cinéma en difficulté. Côté jeux vidéo maintenant cette semaine, le Japon et son studio étendard Nintendo, qui maintiennent un empire quasiment absolu sur le genre. Les légendaires Mario ou Zelda se disputent les premières places avec les petits personnages d'Animal Crossing, des figures du japonais Nintendo. Donc à la fin, c'est toujours le Japon qui gagne dans les jeux vidéo. Une exception notable, le jeu suédois Minecraft qui se maintient à la 4e position. Enfin musique, le rappeur français PLK Andy Polak est présent avec pas moins d'une quinzaine de morceaux dans le top 50 France de Spotify, mais à l'international, le succès du moment demeure The Weeknd, qui aurait été dans les meilleures écoutes de l'été avec Blinding Lights, que l'on écoute, et qui connaît un succès mondial cette semaine avec deux autres morceaux en collaboration, donc The Weeknd, Over Now avec Calvin Harris et surtout Smile avec Juice WRLD. Tout ça dans le box-office de la semaine. Le box-office livre, cinéma, jeux vidéo et musique est diffusé désormais chaque semaine sur France Culture en partenariat avec l'Institut d'études JFK et CBO Box-Office.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
Alors on parlait à l'instant du box-office, nous sommes avec Camille Auriot, responsable des données pour le marché livre de l'Institut JFK. Bonsoir madame.
Bonsoir Frédéric, ravi d'être ici.
On est en partenariat avec vous et c'est aussi l'occasion de comprendre ce dont on parlera tout au long de l'année, ces chiffres, quels sont-ils, comment ça marche. Vous vous en occupez. Alors d'abord un mot rapide sur JFK, c'est un institut d'études, c'est ça?
C'est ça, JFK c'est un institut d'études marketing, c'est une entreprise allemande à la base et on couvre... Donc certes, les marchés des biens culturels, mais également énormément de marchés des biens techniques.
Et vous, vous représentez JFK France, c'est bien ça?
Exactement, sur le marché du livre.
Sur le marché du livre, vous avez des concurrents, on peut les citer, Edistat par exemple, dont les données apparaissent dans l'Express, ou encore des sondages plus indépendants avec des librairies indépendantes, notamment c'est ce qui nourrit Libération, pour prendre cet exemple. Alors le panel livre que vous proposez, qu'on utilisera chaque semaine, de quoi s'agit-il et quelle est sa méthodologie?
Alors, on est ce qu'on appelle un panel distributeur. Donc, nous avons des partenariats avec les différentes enseignes, avec les différents distributeurs, tels que les grandes surfaces alimentaires, donc hyper et supermarchés, les grandes surfaces spécialisées culturelles, les librairies, qu'elles soient en chaîne ou indépendantes, et également tous les réseaux Internet. Donc, que ce soit les acteurs spécialisés dans le e-commerce ou les acteurs traditionnels de la filière. Et donc, en fait, dès qu'un consommateur va passer en caisse, nous allons avoir la vente qui nous est remontée.
Donc des sorties de caisse et non pas des sondages.
Exactement, ce
donc sont des vraies caisse, données.
Des vraies données de vente.
Alors donc on les a avec un peu de retard. Par exemple, cette semaine, les ventes de cette semaine, par exemple des nouveautés de mercredi, je citais Yoga d'Emmanuel Carrère. Mardi, on aura une estimation et vendredi estimation. Prochain, on aura des
les
chiffres un
définitives.
Peu préfiables.
Exactement.
Donc il y a un petit délai.
Un petit délai. En fait, on reçoit les ventes de façon hebdomadaire, pas tous les jours, de façon hebdomadaire uniquement. Donc on sait quel livre s'est vendu ou à quel prix chaque semaine. Et avec ces partenariats, on estime avoir une couverture du marché métropolitain français aux alentours de 98% des ventes. Et nous sommes donc sur les livres physiques neufs, donc pas de livres d'occasion ni de livres numériques. Ça, nous allons les suivre avec une autre méthodologie qui est le panel consommateur, donc des données déclaratives sur les consommateurs, donc différentes. Et une fois que toutes ces informations nous sont remontées, on procède à un grand travail de qualification de la donnée. Donc on a toute une équipe qui est en charge de cette codification et qui va dire, tiens, ce livre-là, c'est plus un livre policier, c'est plutôt un livre pour enfants ou un roman sentimental, par exemple. Donc là-dedans, on a beaucoup de ce qu'on appelle des segments de marché. Donc par exemple, la littérature générale est subdivisée en sous-segments, comme la fiction moderne ou la non-fiction.
Et chaque on va avoir la bande dessinée, on va avoir les livres pratiques, le sport, etc. Tout un tas de segments et sous-segments.
Donc on a trois niveaux de segmentation comme ça. Et des informations telles que le format, la date de sortie, l'auteur, l'éditeur, ainsi de suite, qui nous permettent d'analyser le marché derrière.
Et tout ça va servir aux éditeurs qui regardent tous ces chiffres avec beaucoup de passion le mardi sur leur smartphone. Éventuellement aux libraires, ça leur permet de passer des commandes et les auteurs aussi parfois qui n'ont pas accès mais qui demandent les chiffres pour savoir où en sont les ventes de leurs livres.
Exactement.
Alors quelles sont en cet été 2020 les tendances du marché? Qu'est-ce que vous pouvez en dire? D'abord ce qui s'est passé pendant le Covid, mm-hmm. où vous aviez peu de chiffres, c'était surtout les hypermarchés le online, c'est et puis ça. Ce qui s'est passé depuis, notamment une belle reprise cet été.
Oui, alors depuis le début de l'année, donc depuis janvier, nous avons un marché du livre qui est à moins 11% en chiffre d'affaires, donc un marché en recul, et c'est dû essentiellement au confinement. Car avant le confinement, nous étions en croissance légère de 1%. Nous avons eu une véritable chute pendant la période du confinement. Donc on a perdu 284 millions d'euros de chiffre d'affaires pendant cette période-là. Mais par contre, depuis le déconfinement, donc on observe, depuis le 11 mai, on observe une véritable reprise des ventes. Et nous avons ici 13% de croissance sur cette période-là, donc à fin juillet.
Croissance qui continue selon vous, même si vous n'avez pas tous les chiffres totalement
à jour. Croissance qui continue sur le mois
d'août. Avec une très belle reprise de début septembre, enfin de fin août.
On n'a pas encore les chiffres de septembre.
De fin août, depuis la rentrée, disons, mi-août, une reprise qui est assez significative.
Qui est portée essentiellement par la littérature générale, la bande dessinée et les livres pour la jeunesse.
Un dernier mot sur la rentrée littéraire qui est en cours. On a des statistiques assez fiables sur les ventes, notamment liées au prix littéraire, à partir de moyennes que vous faites sur les 3-4 dernières années. Et ça donne quoi, en gros, sur le Goncourt, le Renaudot
Alors, on a fait une moyenne sur les 3 dernières années, effectivement, des ventes du Goncourt sur son année de vente. Nous avons donc 320 000 exemplaires en moyenne pour un Goncourt et 194 000, par exemple, pour un Renaudot. Pour le Goncourt des lycéens, nous avons 131 000 environ. Et après, on a énormément de prix, des moments de moyenne de ce type-là sur les différents prix.
Avec
et ça change effectivement en fonction des années. Parce que
le Renaudot, par exemple, gros succès à près de 500 000 exemplaires pour Sylvain Tesson, La Panthère des Neiges, on le disait tout à l'heure, et avec des années moins fortes, moins grandes selon les titres.
C'est pour ça qu'on fait une moyenne, effectivement.
Ça permet de savoir un peu où on va. Un mot pour terminer sur un autre secteur que vous ne suivez pas directement, mais vous le connaissez quand même, celui du jeu vidéo. Quelle tendance en ce milieu d'année 2020?
Alors, à fin juillet, sur le jeu vidéo, nous sommes à 5% de croissance en chiffre d'affaires. Donc c'est une croissance qui est tirée essentiellement par les consoles qui, pendant le confinement, ont connu un véritable boost. Alors que les jeux en soi sont stables et les accessoires sont en légère croissance.
Merci infiniment Camille Auriot. Vous êtes responsable des données pour le marché du livre de l'Institut JFK, notre partenaire cette année pour le box-office. On vous retrouvera au cours de l'année lorsqu'il y aura des segments plus particuliers qu'on voudra étudier. Soft Power dans un instant, le sujet principal de cette émission, l'Amérique de Trump versus l'Amérique californienne. Nous serons pour ce grand débat en direct de Washington dans un instant avec Grégory Phillips, le correspondant permanent de Radio France aux États-Unis, en studio dans un format Club de la Presse avec Mathieu Magnodex, qui publie Génération Ocasio-Cortex, les nouveaux activistes américains aux éditions La Découverte, Enguerrand Renaud du Figaro, Emmanuel Paquet de l'Express et Zoé Sfès de France Culture, 18h52 en direct.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
Nous sommes en direct avec Grégory Philippe, envoyé spécial permanent de Radio France à Washington. Bonsoir Grégory.
Bonsoir Frédéric.
Pardon,
bonsoir
vous a fait attendre, on était un petit peu en retard. Cette semaine avait lieu la convention républicaine. Le parti républicain se range comme un seul homme, si on peut dire, comme une seule femme, derrière Donald Trump, qui a fait un show pharaonique entre politique dure, très law and order, et l'entertainment doux, c'est-à-dire le divertissement avec des phrases, des symboles et des feux d'artifice. Comment les Américains ont-ils vécu cette convention en ligne?
Alors écoutez, comme il y a 4 ans, essentiellement à la télévision et sur les réseaux sociaux, même si on a vu que l'audience de la dernière soirée, celle du discours de Trump, avait été moins suivie qu'il y a 4 ans. Il y a 4 ans, il y avait eu à peu près 32 millions de téléspectateurs. Là, 23-24 millions, donc une audience un peu plus faible. Et vous savez combien ça compte pour Donald Trump. Mais surtout, on n'avait pas le décorum habituel de ces conventions, puisque on était sur une convention quasiment à 100% virtuelle. Il s'est passé quelques événements à Charlotte au premier jour de la convention, mais ensuite tout était virtuel jusqu'à cette soirée dont vous venez de parler à la Maison Blanche avec le discours de Trump d'une heure 10 et puis les feux d'artifice. Donc c'est vraiment une année électorale très particulière à cause évidemment de l'épidémie de coronavirus, et les deux partis d'ailleurs, démocrates comme républicains, se sont organisés pour malgré tout pouvoir tenir ces conventions et investir leurs candidats, même si côté républicain on a vu effectivement un peu plus de d'événements en direct et en public, et donc ce dernier soir avec 1500 à 2000 personnes réunies sur la pelouse de la Maison Blanche pour écouter Trump, sans aucun respect des consignes de distanciation distanciation physique et pas avec pas beaucoup de masques sur les visages.
Donald Trump, qui était très en forme lors de la convention nationale républicaine ce vendredi, et s'est déchaîné contre son adversaire Joe Biden, qu'il a qualifié de cheval de Troie pour le socialisme. On l'écoute.
Biden is a Trojan horse for socialism. If Joe Biden doesn't have the strength to stand up to wild-eyed Marxists like Bernie Sanders and his fellow radicals, and there are many, there are many, many, we see them all the time, it's incredible actually, then how is he ever going to stand up for you? He's not.
Biden est un cheval de Troie pour le socialisme. Si Joe Biden n'a pas la force de résister aux marxistes, aux yeux fous, comme Bernie Sanders et ses compagnons radicaux, et ils sont beaucoup, 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 on les voit tout le temps, c'est incroyable en fait. Alors comment va-t-il s'y prendre pour vous défendre ? Grégory Phillips, peut-on dire que c'est une élection présidentielle atypique, la plus importante de notre époque, même comparée à Bush Kerry ou à Trump Clinton, hein, c'était rien à côté, sans même remonter à la violente opposition entre Bernfred et Richard Nixon en 68, après le désistement de Lyndon Johnson. Violent, forcément violent.
Écoutez, élection très importante. Oui, d'ailleurs, les deux partis mettent ça sur la table. Juste pour citer le discours de Michelle Obama, elle a dit aux électeurs, l'ex-première dame pour le Parti démocrate, elle a dit aux électeurs, allez voter comme si vos vies en dépendaient. Vous voyez l'importance de l'enjeu. Puis même chose côté républicain, on vient de l'entendre avec Trump, c'est en gros votez pour moi ou ce sera le chaos socialiste et l'extrême gauche radicale arrivera au pouvoir et ne vous défendra pas. Donc les deux camps évidemment misent sur le fait que cette élection est vraiment cruciale. Et puis oui, elle sera violente. Alors on a l'habitude hein, dans les campagnes électorales américaines. Le premier débat entre Biden et Trump, ce sera fin septembre à Cleveland, et je peux à peu près vous parier que Trump tirera au bazooka sur le candidat démocrate. Mais au-delà du combat entre ces deux personnes et ces deux personnalités, il y a sans doute, je pense, une élection sur quasiment un mode de vie américain. D'un côté, vous avez effectivement Biden, le rassembleur qui veut essayer de réunifier un peu ce pays divisé et penser, par exemple, les plaies des violences policières à l'égard des Afro-Américains. C'est tout le mouvement Black Lives Matter qu'on a vu depuis mars. Et puis, d'un autre côté, vous avez Trump qui dit votre mode de vie est menacé par cette extrême gauche radicale. La vie dans les suburbs américaines, comprenez les banlieues blanches américaines, est menacée si on laisse Biden arriver au pouvoir. Et moi, je suis là pour protéger l'American way of life. Donc, il y a au-delà des deux personnalités qui évidemment sont très opposées, la volonté des deux partis de dire voilà, attention, cette élection est très importante parce qu'elle va décider de la façon dont on vit aux États-Unis avec toutes les questions d'identité, d'égalité, et ça évidemment ça va peser dans les deux mois qui viennent.
Un discours qui nous paraît très outré, mais qui, Grégory Phillips, vous êtes envoyé spécial permanent Radio France à Washington, semble malgré tout porter ses fruits, en tout cas ses premiers fruits, puisqu'on observe que les sondages se réduisent en faveur de Donald Trump, même si pour l'instant Joe Biden reste en tête.
Oui. Vous avez raison, on était avant les conventions à 9-10 points d'avance dans les sondages nationaux pour Joe Biden. Après les conventions, Trump a rattrapé un peu de retard et Biden n'a plus que 6 points. Alors attention, ce sont des sondages nationaux, on va évidemment regarder ce qui se passe état par état et notamment dans les swing états states, clés. Oui. Exactement, Pennsylvanie, Ohio et d'autres états où là Biden est encore en tête. Mais oui, l'avance se rétrécit. Puis vous savez, il y a un point très important, c'est que je vous parlais des débats, le premier c'est fin septembre. Mais les Américains vont voter très tôt. Je crois qu'en Caroline du Nord, les électeurs vont recevoir leur bulletin dès le 4 septembre. Ça veut dire qu'il y a des Américains qui vont commencer à voter en septembre, début octobre, avant même la tenue des débats et avant même une éventuelle remontée de l'économie sur laquelle parie Trump. Donc là, on a des sondages. Certes, on est à 2 mois de l'élection, mais les premiers votes vont intervenir très rapidement, dans quelques semaines. Donc les choses sont en train de se jouer maintenant. Et ça, c'est vraiment très important, peut-être même avant l'organisation de ces 3 débats.
On termine, Grégory Phillips, avec vous pour parler de parler avec Kamala Harris. Kamala Harris, qui est donc la vice-présidente potentielle des États-Unis, qui a été désignée et qui a fait son discours d'investiture à la convention démocrate. On l'écoute pour commencer, Kamala Harris.
I keep thinking about that 25-year-old Indian woman, all of 5 feet tall, who gave birth to me. On that day, she probably could have never imagined that I would be standing before you now and speaking these words. I accept your nomination for Vice President of the United States of America.
Kamala Harris qui accepte donc l'investiture à la vice-présidence des États-Unis. Elle rendait un hommage touchant à sa mère, hein, cette femme indienne de 25 ans, d'1,50 m, qui lui a donné naissance, cette spécialiste du cancer qui est morte justement d'un cancer. Pourquoi Grégory Philippe, Joe Biden, figure de transition, a-t-il choisi pour devenir sa vice-présidente potentielle, Kamala Harris?
Écoutez, sans être trop simpliste, pour trois raisons. C'est une femme, elle est noire, de père jamaïcain et de mère indienne, et elle est centriste. Voilà en gros les trois raisons qui font que Joe Biden a préféré Kamala Harris, par exemple, à une Elizabeth Warren ou à d'autres femmes qui auraient pu postuler à être candidate pour la vice-présidence. Et puis aussi, Kamala Harris... Elle a 55 ans, elle est beaucoup plus jeune que Biden qui en a 77, et elle va permettre de rassurer un peu les démocrates qui notamment hésitent un peu à cause de l'âge de Biden, en disant voilà, il y a quelqu'un derrière de dynamique qui éventuellement sera disponible pour un mandat à partir de 2024. Donc elle a un aspect un peu rassurant en disant voilà... par rapport à l'âge de Biden. C'est d'ailleurs assez amusant parce que souvenez-vous, quand Obama a été élu, c'était Biden qui rassurait par rapport à un candidat que certains jugeaient peut-être trop jeune ou trop inexpérimenté. Bah là, c'est l'inverse. Biden prend quelqu'un de plus jeune que lui pour dire à l'électorat, voyez, on a quelqu'un de dynamique qui peut, notamment dans les débats face à Mike Pence, apporter sa gnaque, si vous voulez. Donc voilà toutes les raisons pour lesquelles elle a été choisie. J'ajoute que où je précise qu'effectivement, cette ancienne procureure de Californie est considérée comme centriste, un peu comme Biden, et qu'elle ne parle pas forcément à la partie la plus à gauche de l'électorat démocrate, ceux qui, par exemple, soutiennent Alexandria Ocasio-Cortez ou qui voient en AOC l'espoir du parti. On est vraiment sur une ligne centriste pour aller battre Trump au mois de novembre.
On va revenir sur cette question dans un instant. Merci infiniment, en tout cas, Grégory Philippe, d'avoir été en direct depuis Washington. Grégory Philippe, envoyé spécial permanent de Radio France aux États-Unis sur Kamala Harris. Je renvoie aussi à un très long et intéressant portrait de Dana Goodyear paru il y a quelques mois déjà dans le New Yorker. Kamala Harris makes her case et qui raconte son parcours dans de nombreux détails et avec tout un tas de révélations. France Culture, 19h passé de 2 minutes. On l'évoquait il y a un instant, une gauche plus à gauche que Joe Biden et Kamala Harris, qui est parfois inquiète de Joe Biden, encore plus évidemment de Donald Trump. Zoé Sfez, c'est le sujet d'un livre du correspondant de Mediapart aux États-Unis, Mathieu Magnodex.
Avec nous en plateau aujourd'hui. Bonsoir Mathieu Magnodex. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Donc vous êtes correspondant aux États-Unis Mediapart. Vous l'avez été pendant les 2 années et demie. Vous avez suivi le réveil sous l'ère Trump, justement, de ce qu'on appelle en France et de ce que vous appelez donc en couverture de ce livre les nouveaux activistes américains. C'est cette fameuse gauche dont Joe Biden serait le cheval de Troie. Je crois qu'on peut le dire, spoiler dans votre analyse, vous n'y croyez pas. Cette gauche qui s'est complètement réveillée. On ne parle pas d'activistes aux États-Unis, on parle d'organizers. Vous allez nous expliquer pourquoi. Ce réveil-là, il a été extrêmement puissant. Il s'est incarné dans l'arrivée au Congrès de plusieurs membres du Congrès avec des profils absolument atypiques. Parmi eux, la Benjamine de l'histoire, 116e législature du Congrès, débarque Alexandria Ocasio-Cortez, une jeune femme de 28 ans, elle est latina. Elle a été serveuse, elle incarne d'une certaine manière toutes les problématiques liées notamment à la question des minorités aux États-Unis. Ces activistes, vous les avez rencontrés pendant 2 ans et demi, vous dressez un portrait de cette génération génération qu'on connaît mal. Dans ce livre, Génération Ocasio-Cortez et nouveaux activistes américains, vous ouvrez le livre sur toute une série de portraits de ces gens qui sont tous extrêmement jeunes et qui ont chacun vécu des moments de rupture extrêmement soudains, très vite. Est-ce que vous pouvez nous présenter quels ont été ces moments de rupture et d'où ils viennent, ces fameux jeunes radicaux américains ?
Oui, en effet, c'est des gens qui sont tous extrêmement jeunes. Ils ont parfois tout juste 20 ans, nés donc en 99 ou 2000. Parfois, ils sont un peu plus âgés, nés à la fin des années 80 pour les plus âgés. Et ils ont en commun, je crois, au-delà de leur biographie multiple, de leurs origines multiples, de leur milieu même parfois multiple, parce qu'il y a aussi des gens qui sont nés dans des milieux extrêmement aisés et qui ont ouvert les yeux sur un certain nombre de problèmes et d'inégalités aux États-Unis, ou des gens issus vraiment des quartiers populaires, qu'ils soient noirs ou hispaniques ou blancs ou juifs ou musulmans. Il y a toute une galerie de portraits comme ça de gens extrêmement variés dans leur identité, leur biographie. Mais ce qu'ils ont en commun, c'est d'être le produit de crises successives. C'est-à-dire qu'ils ont connu toutes les crises et finalement leur expérience de vie est de n'avoir d'abord jamais été enthousiasmé politiquement parce que ils ne se sentent pas, même s'il a la plupart vont effectivement voter pour Joe Biden un peu par défaut parce qu'en face c'est Donald Trump. Ils ne partagent pas ces idées du tout. Et ils ont toujours été donc impactés par les crises, c'est-à-dire qu'ils ont vécu d'abord souvent personnellement l'impact de la crise financière, par exemple en 2008 avec un père qui a perdu un travail, une mère qui a été impactée. Ils ont vécu la formidable explosion des inégalités avec des parents ou des amis ou eux-mêmes qui exercent deux ou trois métiers donc avec cette impossibilité finalement d'organiser sa vie, d'avoir une maîtrise sur sa vie, même si aux États-Unis évidemment il y a le plein emploi, mais à quelles conditions pour beaucoup de gens. Et puis évidemment avec cette question de la crise climatique qui, en fait, littéralement, parce que ils ont 20 ou 30 ans et donc se pose la question de la fin de leur vie, de la suite de leur vie, de la possibilité même de faire des enfants, qui est extrêmement centrale, qui nourrit une peur. Et c'est une peur, ils essayent de ne pas être terrifiés par cette peur, ils essayent de la transformer politiquement.
Alors effectivement, vous recensez tous ces mouvements qui sont nés parfois extrêmement vite et qui ont donné lieu à des naissances de mouvements qui sont aujourd'hui très puissants, parmi eux Sunrise, qui est une organisation qui a, je crois, quelques dizaines de mois et qui regroupe toute une foule de jeunes activistes. Il y a des maisons où des militants habitent et qui donc effectivement sont partisans, par exemple, de ce Green New Deal, qui est une idée extrêmement forte chez ces jeunes radicaux. Et alors tous ces gens, ils ont réinvesti des outils politiques, idéologiques, qui en fait existent depuis assez longtemps aux États-Unis, depuis les années 30, notamment l'idée de l'organisation. Pourquoi est-ce que finalement tous ces outils idéologiques étaient tombés en désuétude et comment ça se fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui, dans l'ère Trump, a permis qu'il soit réactivé de manière aussi efficace et extrêmement rapide?
En fait, il y a en effet une tradition donc de l'organizing aux États-Unis, c'est-à-dire c'est en gros très concrètement et au départ sans visée forcément très politique. Ça peut être des gens extrêmement pragmatiques qui ont lancé ça. C'est mobiliser les gens dans les quartiers où ils sont pour des causes et obtenir finalement des victoires sur la question du logement, sur la question de la cherté de la vie. C'est changer, c'est faire des campagnes locales pour gagner des choses. Ça, c'est une tradition qui existe depuis très longtemps, qui a été repris au moment du mouvement des droits civiques. Le mouvement des droits civiques, c'est pas juste Martin Luther King, c'est beaucoup d'organisateurs comme ça qui structurent des campagnes et qui ont un sens aussi un petit peu pour agiter finalement l'opinion publique, prendre à témoin l'opinion publique. C'est beaucoup ça aussi, bien sûr, les droits civiques. Et cette culture-là, finalement, elle a irrigué. Et alors, l'organizing aux États-Unis, c'est beaucoup, beaucoup de choses, et y compris des organisations qui travaillent, qui font du travail social dans les quartiers et qui n'ont aucune vision politique particulière, même parfois sont extrêmement classiques dans leurs intentions. Mais une petite partie de ce monde-là, en fait, utilise désormais depuis le choc de l'élection de Trump, qui a été là encore un moyen vraiment de un formidable activateur à politique, enfin à engagement pour ces gens-là. Il réactive en effet toutes ces techniques qui consistent en fait, encore une fois, à mettre les gens ensemble, les organiser. Alors, ça se faisait au niveau local, et maintenant, il y a une dimension plus nationale. C'est-à-dire que, par exemple, Sunrise, dont vous avez parlé, donc il y a une organisation de gens qui ont entre 18 et 35 ans, qui, en effet, militent pour le Green New Deal, donc la relance verte et inclusive de l'économie.
Que porte et, aussi Alexandria Ocasio-Cortez.
Que pense, bien sûr, AOC. Eh bien, ces jeunes, ils agissent au niveau très local, donc ils ont des petits chapters, donc des petits chapitres, des petites antennes locales, et puis ils sont structurés aussi au niveau national, et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont aussi une vision très politique des choses. C'est-à-dire qu'ils se disent que gagner des campagnes localement sur le terrain, ça ne va pas suffire, qu'il faut avoir une dimension nationale, mais aussi penser à la politique, gagner le pouvoir authentiquement, c'est-à-dire construire une nouvelle hégémonie au sein du Parti démocrate.
Et alors effectivement, on va avancer, mais la question, le terme qui revient souvent, vous l'avez noté, c'est la question du realignment. Ce que prônent tous ces gens-là, c'est le réalignement. En fait, le réalignement du Parti démocrate sur le cœur de ce qu'est finalement serait son but, c'est-à-dire défendre les working class. Là, on est dans une situation extrêmement particulière, puisque évidemment, AOC a moins de 35 ans, donc elle n'était pas en âge de se présenter de toute façon aux élections présidentielles. Néanmoins, c'est aussi toute cette génération qui a porté la montée fulgurante, mais pas suffisante, de Bernie Sanders, qui était un vieux lascar de la politique qui est quand même prêché dans le désert pendant des années, et qui aujourd'hui a été d'une certaine manière l'emblème de cette génération-là. On est dans une situation politique où finalement Joe Biden, dans un premier temps, intègre quelques points de ces questions-là dans son programme et qui finalement se présente dans un ticket avec Kamala Harris. En quoi est-ce que Kamala Harris, ça n'est pas finalement Alexandria Ocasio-Cortez? Autrement dit, toute cette génération, dans quelle situation elle se trouve aujourd'hui?
Ben justement, donc là, sur la question du réalignement, juste deux mots là-dessus, c'est que c'est l'idée en fait que ces gens sont persuadés, y compris non pas juste parce qu'ils y croient, mais ils sont persuadés que vu l'ampleur et l'accumulation de toutes les crises actuelles, donc crise, explosion des inégalités, crise catastrophe climatique dans laquelle nous sommes déjà, hein, quand même, ils ont la certitude que en gros le moment, les 40 ans, le moment ultra libéral, néolibéral aux États-Unis, c'est ce moment-là qui en ce moment triomphe. Évidemment, est en train de se refermer historiquement, et donc on va passer à une autre phase. Donc évidemment, ils ne sont pas du tout naïfs hein, sur le pouvoir actuel qu'ils ont, mais ils voient bien que quand, par exemple, AOC gagne une campagne locale, qui est seulement une victoire au Congrès, c'est-à-dire une élue sur 600
oui, dans le au Queens, Congrès, un endroit bien sûr, facile.
bien sûr. Mais ils voient, ce qu'ils voient, c'est l'effet, le levier politique que ça a eu à la fois politiquement, parce qu'elle elle agit beaucoup au Congrès, elle se veut la porte-parole de ces mouvements au sein du Congrès. Et ça provoque aussi, par effet de domino, beaucoup de campagnes actuellement où des candidats similaires à elle gagnent des élections face à d'autres candidats démocrates. Donc, ce qu'ils voient, c'est que, pour terminer juste là-dessus, ils voient la priorité actuelle, c'est de dire, nous n'avons pas... Joe Biden n'était certainement pas notre candidat, c'était Bernie Sanders, un peu Elizabeth Warren pour la plupart des gens que j'ai rencontrés, quand ils s'intéressent à la politique, parce qu'il y a aussi des organisateurs qui s'intéressent pas à la politique, qui sont tellement déçus par la politique qu'ils agissent dans un champ très différent. Donc, la priorité, c'est de dire, même si c'était pas notre choix, on va tout faire, et justement, on va lancer des campagnes pour que, et taper aux portes, hein, tout simplement, pour que Biden gagne l'élection, et ensuite, s'il gagne avec Kamala Harris, eh bien, dès le lendemain, nous nous remettrons à travailler pour influencer le Parti démocrate, pour qu'il change vraiment la vie des gens.
Alors c'est une gauche très riche, hein, on pourrait citer Democracy Now, l'émission de radio, The Nation, le journal, plus jeune Jacobin, revue marxiste sous la forme d'un magazine new-yorkais, Black Lives Matter évidemment qu'on a cité. Cette gauche-là est riche, en même temps elle a été défaite massivement à deux reprises. Bernie Sanders et même Elizabeth Warren ont été marginalisées par Hillary Clinton en 2016 et par Joe Biden pour la présidentielle de 2020. Est-ce qu'elle peut sortir un jour de sa grande marginalisation, cette gauche?
Oui, c'est leur calcul en fait, ce qu'ils voient, c'est que, et ça je partage assez ce constat, c'est que dans les 5 dernières années, il y a eu une ouverture en fait de l'imaginaire et des possibles aux États-Unis.
L'occupation de l'imaginaire, ça c'est un très beau chapitre là-dessus, sur le storytelling qui est très important, qui est un champ aussi que la gauche de la gauche, et Bernie Sanders en particulier, a toujours renoncé à actionner, c'est-à-dire l'idée de faire du storytelling bêtement à l'américaine.
C'est ça, mais là c'est parce qu'aussi il y a une concordance entre finalement ce qu'il porte, c'est-à-dire que ce que dit toujours AOC et les gens qui sont autour d'elle, c'est de dire nous sommes en politique parce que nous voulons vraiment changer la vie des gens. Donc à partir de là, finalement, le storytelling, l'histoire qu'il raconte est assez simple. C'est-à-dire, si nous entrons en politique, alors nous savons que vous, les mouvements, ou les gens qui portent des idées plus à gauche ou qui veulent vraiment un changement concret dans leur vie, dans votre vie, nous savons que vous ne nous soutiendrez en politique qu'à la condition que nous fassions vraiment ce que vous vouliez que nous fassions. Et donc du coup, il y a un contrat politique très clair en fait pour ces gens-là. Et demain, si Ocasio-Cortez se met à ne plus représenter les demandes du mouvement social américain, elle deviendra une démocrate comme une autre, et ça, elle en est extrêmement consciente. Donc, il y a en fait une forme de clarté politique qui est tout de suite qui est toujours là, et donc qui finalement leur permet de dire oui, bah nous ne sommes pas encore assez puissants pour peser à l'intérieur du parti démocrate, nous le savons, mais on sait aussi que la victoire ne se gagnera pas juste à l'intérieur du parti, que ça passe aussi par des choses qui sortent dans la société, de l'organisation dans la société, et c'est exactement ce qu'on a vu quand même avec, en deux mots, avec ce mouvement social contre les violences policières et le racisme aux États-Unis, qui est quand même un mouvement social qui d'une façon ou d'une autre va forcément peser dans la campagne, parce que c'est entre eux, on estime entre 15 et 23 millions de personnes qui sont descendues en quelques semaines dans les rues aux États-Unis, et c'est probablement, sans du tout nier ce qui s'est passé sous les droits civiques, sous le mouvement des droits civiques, c'est probablement en si peu de temps le plus grand mouvement social de l'histoire des États-Unis.
C'est passionnant. Le livre s'appelle Génération Ocasio-Cortez, les nouveaux activistes américains. Ça a paru il y a quelques mois aux éditions La Découverte. Je rappelle, Mathieu Magnodex, que vous êtes correspondant de Mediapart aux États-Unis. Vous restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission, puisqu'on va parler, on va continuer à parler non seulement de cette énergie, cette révolte, ce radicalisme, mais aussi d'une Amérique peut-être plus positive avec nos chroniqueurs Enguerrand Renaud, Emmanuel Paquette et donc Zoé Sfez.
Baba.
Yes, my son.
Tell me a story.
Which one?
The story of home.
The Black Panther has been the protector of Wakanda for generations. The mantle passed from warrior to warrior.
Your Highness?
Now, because your friend murdered my father, I also wear the mantle of king. So I ask you, as both warrior and king, how long do you think you can keep your friend safe from me?
À l'instant, la voix de Chadwick Boseman, premier rôle dans Black Panther, décédé Zoé Sfez vendredi d'un cancer à 43 ans.
Oui, alors c'est une information qui intervient à un moment politique de manière extrêmement étrange, qui entrechoque ce moment politique. Pourquoi? Parce que Chadwick Boseman, probablement personne ne savait qu'il était malade, c'est une réalité. Et qui est cet acteur de 43 ans? C'est un des acteurs qui finalement incarne le plus ce qu'on vient de raconter avec Mathieu Matnudet. Il a publié un dernier tweet, son tout dernier tweet a été publié juste avant justement que Biden annonce Kamala Harris comme sa colistière. Ce tweet qui disait « Oui, votez en 2020 ». Nous allons tous aller voter. Chadwick Boseman l'a posté parce qu'il partageait. Il a partagé les bancs de l'université avec la colistière de Joe Biden. Et il est devenu, en fin d'après-midi, le tweet le plus aimé de l'histoire de Twitter. Là, aujourd'hui, précisément il y a quelques heures. 43 ans, Chadwick Boseman, eh bien, c'est finalement, il a incarné au moins, on va dire, 4 ou 5 rôles décisifs qui ont vraiment accompagné la question de la représentation des Noirs dans la production culturelle aux États-Unis et d'une certaine manière leur place dans la société. Il a notamment incarné en 2013 dans le film 42, Jackie Robinson, que nous on connaît peu, mais qui a été le premier noir en 1947 à jouer en ligue majeure de baseball, et qui a été un pionnier de la révolution des droits civiques, qui l'a accompagné. En 2014, il est James Brown, que je ne vous ferai pas l'affront de vous présenter. En 2017, il a été l'avocat afro-américain Thurgood Marshall, qui dans les années 60 a vraiment mis en évidence le caractère systémique du racisme dans le système judiciaire américain. Et puis évidemment, l'explosion, on l'a entendu ici, elle a eu lieu quand il s'est vu confier le rôle et bien du premier super-héros noir de l'histoire des comics. C'est le roi T'Challa, souvenir T'Challa, souverain d'un royaume africain imaginaire, le Wakanda. Il a été présent dans plusieurs films de la franchise Marvel, et puis finalement Black Panther en 2018, on en avait beaucoup parlé avec vous, Frédéric Martel, où Chadwick Boseman apparaît entouré d'une casting de très haute volée qui réunit autant Lupita Nyong'o que Angela Bassett, donc des figures non seulement américaines mais aussi africaines. Succès planétaire d'un film qui fait de lui une icône dans à peu près toutes les communautés de la diaspora américaine, afro-américaine et africaine, qui d'une certaine manière projette l'Afrique dans le futur, d'ailleurs dans l'imaginaire collectif. Sa disparition à la veille de cette campagne où la question des minorités s'annonce centrale est d'autant plus étrange qu'effectivement on découvre qu'au moins les trois derniers rôles que j'ai cités, il les a incarnés alors qu'il se battait déjà contre le cancer du côlon qu'il a emporté à l'aube donc de cette élection cruciale à seulement 43 ans. Figure héroïque, d'autant plus héroïque.
Une réaction, Mathieu Yodex?
Non, parce que moi, j'ai bien sûr, j'étais aux États-Unis quand Black Panther est sorti, et vraiment, ce qui était extrêmement frappant, c'est en effet la coïncidence, comme vous le dites, entre le moment politique dans lequel on est, notamment ce grand mouvement social qui a eu lieu contre les violences policières et le racisme, et la sortie de ce film, où vraiment les salles, quand on allait dans des cinémas où il y avait beaucoup de noirs, dans des quartiers noirs, il y avait vraiment cette idée que, enfin, enfin, nous voilà représentés par un film d'un grand studio et nous sommes visibles. Et c'est exactement toute la discussion qui traverse en ce moment, alors discussion qui n'est pas nouvelle hein, aux États-Unis, qui est une très vieille discussion avec ce sentiment que ça ne s'arrêtera jamais et qu'il n'y aura jamais finalement de représentation suffisante. Mais c'est exactement la discussion dans laquelle on est en ce moment.
France Culture, Soft Power. Frédéric Martel.
19h19 précisément sur France Culture. Une Amérique divisée, une Amérique fragilisée, notamment par le comportement souvent irrationnel du président Donald Trump, mais une Amérique qui sort également renforcée de la crise sanitaire grâce à la Silicon Valley et à Hollywood. Différemment, mais clairement. On y revient avec un certain nombre d'exemples dans cette émission consacrée ce soir à l'Amérique Trump versus l'Amérique californienne. On commence peut-être, Emmanuel Paquette, avec vous par tout simplement la puissance des GAFA et leur valorisation tout à fait astronomique, le mot est même faible.
Astronomique et en même temps, ça commence à faire craindre une explosion d'une bulle technologique qui serait en train d'apparaître, puisque aujourd'hui Apple dépasse les 2000 milliards de valorisation boursière, donc c'est plus que les 40 plus grandes sociétés du CAC 40 en France, dans lesquelles, je vous rappelle, il y a Total, LVMH, donc
Airbus,
donc c'est quand même des grandes entreprises, donc à lui seul, il pèse
plus. Il n'y a plus d'aéroport, on nous a dit, on dirait en Renault, mais...
Il n'y a plus d'avion, il n'y a plus de train.
Il y a toujours des iPads et des iPhones, du coup.
Comment expliquer ces résultats?
Alors ça s'explique par il y a plusieurs raisons. D'une part, aujourd'hui, il faut savoir que les résultats publiés par les GAFA en général ou les FANG comme on les appelle, hein, puisqu'on si on rajoute Netflix, donc Facebook, le N de Netflix, Google et puis Amazon et Facebook, à chaque fois qu'ils publient des résultats trimestriels, ils font mieux que les attentes du marché. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ce sont des sociétés qui ne sont pas du tout endettées et qui ont énormément de cash, donc qui peuvent faire des acquisitions à faible coût sur le marché avec des sociétés qui peuvent être en difficulté. Et donc, la seule possibilité de ces entreprises qui sont déjà très fortes et puissantes, c'est d'être encore plus puissantes et fortes à la sortie de la crise actuelle. Et puis, le dernier point qui n'est pas neutre, c'est qu'en fait, ce que disent les Américains, ce sont des sociétés qui sont coronavirus friendly. Donc, ce sont le virus, en fait, est un peu leurs amis pour le coup. Quand on regarde aujourd'hui Apple, chaque division d'Apple a profité du coronavirus. Par exemple, les Macintosh, l'ordinateur portable, toute l'industrie de l'ordinateur portable a fait un espèce de revival avec le coronavirus, puisque les foyers n'étaient pas équipés, en tout cas pas suffisamment équipés, avec les enfants qui faisaient de l'éducation à distance, les parents qui faisaient du télétravail. Il a fallu acheter plusieurs ordinateurs dans chaque foyer, en tout cas si on avait les moyens de le faire, ou des tablettes. Donc ça bénéficie à l'ensemble de l'industrie informatique. Et puis derrière, il y a le divertissement dont on parlait, hein, donc soit pour s'abonner après travailler effectivement, apprendre pour les collèges et les étudiants, mais aussi pouvoir se divertir, donc acheter des jeux vidéo, on en parlait tout à l'heure avec les bons chiffres dont parlait GFK précédemment, et puis la lecture, et puis surtout l'abonnement à des plateformes du type Netflix ou Amazon Prime Video et Disney Plus qui ont enregistré un nombre record d'abonnés. Il faut savoir que chez Apple, tout ça passe par son store. Donc, et chez Google, ça passe par son Android Store. Donc, à chaque fois que quelqu'un s'abonne, ça rapporte de l'argent. Aujourd'hui, cette manne de l'App Store chez Apple, c'est 67% de marge. C'est-à-dire que quand 100 euros de chiffre d'affaires rentre chez Apple, c'est 67 euros qui tombent directement dans la poche de l'actionnaire. C'est des marges qu'on n'a jamais vues dans l'industrie.
Et c'est là où on arrive au plus de 2000 milliards.
De valorisation. Deux autres points aussi, c'est que l'iPhone SE, qui est un iPhone entrée de gamme à moins de 400 euros, c'est extrêmement bien vendu, notamment sur des pays sur lesquels Apple veut rentrer, dont notamment l'Inde, par exemple. Donc ça a créé un nouvel dynamisme sur l'iPhone. Et puis le dernier point, c'est l'iPhone 12 qui va arriver en mois d'octobre ou novembre. L'iPhone 12 qui sera le premier terminal 5G. Et donc, les gens qui voudront s'équiper d'un terminal 5G autre que Samsung ou Oppo, qui sont les marques chinoises ou Huawei, pourront le faire avec un iPhone. Donc, tout ça, aujourd'hui, profite à Apple, profite plus largement aux GAFA. Il faut voir qu'aujourd'hui, quand même, ces GAFA représentent 20% de l'indice, le S&P 500. Le S&P 500, c'est les 500 plus grandes sociétés américaines. Ce poids, on l'a jamais vu depuis les années 1980, au moment du pétrole et du choc pétrolier. Donc, certains s'en émeuvent en se disant, qu'est-ce qui va se passer? On peut pas avoir de telles valorisations. C'est forcément une bulle et ça risque d'exploser.
Emmanuel, Enguerrand Renaud.
Oui, je voulais rebondir et ça marque vraiment cette Amérique à deux vitesses, hein, puisque on l'a vu, le PIB a chuté d'un tiers. C'est historique, on n'a jamais vu l'Amérique chuter d'un tiers. Et pendant ce temps-là, les GAFA ont beaucoup augmenté. Et on a vu ce que tu disais, Emmanuel. C'est vrai que l'indice Standard & Poor's, on se demandait pourquoi. Est-ce qu'il était revenu? Il est même plus haut aujourd'hui qu'il n'était en mars. Eh bien, c'est parce que, exactement, le poids de ces GAFA est prépondérant dans cet indice. Donc, il y a deux Amériques. L'Amérique qui va bien, c'est l'Amérique des GAFA. C'est l'Amérique qui est passée dans la numérisation de l'économie. Et puis l'Amérique qui va mal, et ça on va vraiment souffrir, on va compter les nombres de licenciements,
les plans, voilà, économiques.
Et en fait, on l'indice boursier masque ça. Il y a une Amérique qui va très mal aujourd'hui, il y a une Amérique qui va très bien. Et qui va très bien, et on n'a jamais vu une telle distorsion entre les deux.
Alors, rentrons dans quelques détails. Parmi les succès, il y a Amazon, il y a aussi Disney+, il y a Netflix, on évoquera brièvement Warner, et puis des entrées en bourse qui vont avoir lieu cet automne. Commençons peut-être par Amazon et Disney+, Emmanuel Paquette.
Oui, Disney+, aujourd'hui, c'est plus de 60 millions d'abonnés dans le monde. C'est 100 millions pour tous les services Disney+.
Si on inclut aussi Hulu.
Et les autres. Donc, c'est une farce de frappe assez exceptionnelle, hein, puisque Disney+, n'existait pas il y a un an. Donc, c'est un vrai succès.
C'est en plein Covid, Disney Plus, hein, c'est arrivé au mois d'avril.
Exactement, à tel point que Disney, pour Mulan, qui est son prochain grand film, ils ont décidé de le sortir directement sur la plateforme, alors qu'il devait sortir au début,
en salle, ouais.
Directement en salle, avec un budget quand même de l'ordre de 200 millions de dollars. Hein, donc il va falloir quand même que de nombreux foyers regardent Mulan depuis chez eux, surtout avec un prix qui sera autour de 29,9 $ aux États-Unis.
Donc à payer en plus de l'abonnement, sauf pour la France.
Sauf pour la France, voilà, où on ne sait pas encore quand on l'aura en plus, hein, puisque normalement c'est
le 4 septembre
aux États-Unis.
Voilà, mais pour la
et
France.
Parce que nous, c'est lié à la question de la chronologie des médias qui est encore très compliquée en France.
Non, parce que s'il sort directement sur la plateforme, il n'y a plus de chronologie des médias, du coup, ça casse la chronologie.
Il ne sortira jamais au cinéma. Ouais.
Voilà, exactement. En revanche, là où Disney fait un pari, c'est qu'il y a eu deux précédents, un de la Warner et un d'Universal. Il y en a un qui existe, donc Troll 2 pour les amateurs de dessins animés comme vous, Frédéric Martel, et puis un Warner Scooby-Doo qui sont sortis directement.
C'est plutôt moi, sortir, Scooby-Doo. Voilà,
ils devaient sortir en salle. Les deux sont sortis directement sur les plateformes, mais avec un prix de 19,9 $, donc 10 $ de moins que Mulan. Donc Disney fait un double pari, pari de sortie directement sur les plateformes et pari avec un prix très élevé. Donc c'est quand même, disons, assez gonflé de la part de Disney.
Enguerrand.
C'est un mouvement, j'allais dire historique dans l'histoire du cinéma. Souvenez-vous, l'année dernière, on disait que Disney avait quand même placé 5 films à plus d'un milliard de dollars dans le box-office. Hein. Il y avait Avengers,
Star Wars.
Il y avait Reine des Neiges 2, bien sûr, Captain Marvel et Aladdin. Et donc, ils avaient 10 milliards, voire même, puisqu'ils ont racheté la Fox, 12 milliards de box-office, ça ne s'était jamais vu. Ils pariaient sur la salle. La salle, c'était vraiment leur recette. La salle s'est fermée avec le Covid. Eh bien, ils basculent immédiatement et tout de suite et complètement sur la plateforme digitale. Et là, c'est vraiment un basculement dans l'histoire du cinéma. C'est-à-dire que les salles sont fermées aux États-Unis et les plateformes sont là, puisque Disney+ s'est lancé, Netflix est là. Et tu l'as dit, les films d'Universal et de Warner ont été sauvés. Universal, plus de 100 millions pour
Troll.
Troll 2. Ce qui est gigantesque, ouais, quand même. Et donc, en quelques mois, eh bien, l'histoire du cinéma a basculé de la salle vers les plateformes.
Alors attention, ils ont quand même Disney à un film en cours qui est X-Men, justement les nouveaux mutants, qui là est sorti en salle.
Et oui, mais regarde, j'ai regardé le box-office. On est le 30 août, d'accord. Le box-office, le premier film au box-office, 240 millions de dollars. Le premier film. Ah. C'est-à-dire que l'année dernière, à pareille époque, je vous dis, il y avait 5 films au-dessus du milliard. Ouais. C'est quand même assez étonnant.
Et les exploitants de salles ne s'y sont pas trompés, parce qu'il y a eu des scènes de rage de la part des exploitants, notamment en France, où des affiches de Mulan ont été lacérées par des exploitants, parce qu'ils comprennent très bien, effectivement, aussi, qu'il y a un désaveu ou un abandon qui va marquer, même symboliquement, dans l'esprit.
Il y a un abandon complet. Alors, ces mêmes exploitants de salles, quand même, bon, ils ont lacéré les affiches de Mulan, ils oublient quand même de remercier Disney, parce qu'il faut le faire, parce que l'année dernière, plus de la moitié de leur chiffre d'affaires venait des films Disney, quand même. Donc, on ne remercie pas en 2019 et on la sert en 2020. Enfin bon, C'est l'époque qui veut ça.
Puis on verra quand même comment le Marvel, 20th Century Fox et Disney, à l'occurrence les X-Men, les Nouveaux Mutants, va évoluer quand même dans les semaines à venir.
Alors difficulté. On a le chiffre du premier week-end.
Oui, on a le chiffre.
Hein. Donc ça fait 8 millions de dollars.
Je l'ai cité tout à l'heure.
Voilà, ouais. 8 millions de dollars, c'est le plus gros box-office depuis la reprise du cinéma. Alors ça ne veut pas dire grand-chose.
C'est pas grand-chose.
Mais
quand
c'est quand même 8 millions de dollars sur un week-end. Voilà. Juste pour les États-Unis.
Alors, autre exemple, après Disney Plus, et on est dans les GAFA AM, avec un petit N à la fin, mais qui devient en ce moment un grand N, à savoir Netflix, le petit GAFA qui n'arrête plus de monter. Arrivé en France en 2014, il compterait déjà plus de 10 millions d'abonnés en France et presque 200 millions dans le monde. Emmanuel Paquette, là aussi, succès du confinement.
Oui, et puis en bourse, c'est pareil, je reviens sur ce que disait Enguerrand, on voit Netflix qui a atteint des sommets de valorisation en bourse. Eux-mêmes en sont un peu, en reviennent un petit peu en disant « faites attention, on a bénéficié du coronavirus, les prochains chiffres risquent d'être un peu moins bons ». Donc en gros, ils disent au marché de se calmer. C'est l'entreprise elle-même cotée en bourse hein, qui, alors elle le dit pas aussi crûment que je le dis là, mais quand même, donc quasiment. Donc il y a vraiment un risque de saturation, un double risque de saturation, puisque beaucoup de plateformes arrivent. Donc il va falloir démultiplier les abonnements, 3, 4, 5 abonnements.
Disney Plus, HBO.
HBO Max, voilà, qui n'est pas un grand succès.
Salto en France, qui effraie beaucoup Disney.
Salto qui devrait sortir en septembre. Apple TV+, qui pour l'instant est plutôt un échec, hein, pour le coup. Personne ne parle beaucoup de... Voilà. Et Peacock, effectivement, qui là, visiblement, est plutôt basé sur pas sur de l'abonnement, mais sur la publicité. Donc, qui est un petit peu à part dans le paysage. Mais effectivement, il va y avoir des arbitrages de la part des foyers, de savoir à quel service je m'abonne, lequel je conserve. Donc, assez vite, on va voir, il risque d'y avoir des morts dans cette guerre des plateformes, surtout à l'aune du coronavirus et au fait que les foyers ne peuvent pas avoir plusieurs abonnements, en tout cas pas plus de 2 ou 3.
Netflix qui annonce évidemment, vu le moment et l'actualité autour de Christopher Nolan, que tout simplement ils ont sur leur catalogue, pour leurs abonnés, Batman Begins, The Dark Knight, The Dark Knight Rises, Inception, Interstellar et même Dunkerque. Ouais. Donc, voilà. Et puis ils rajoutent, Zoé Sfez, 4 Godard qui vont sortir le 1er septembre. Non seulement il y avait eu les Truffaut et les Jacques Demy ce printemps, mais maintenant 4 Godard qui sortent sur Netflix.
Oui, alors c'est une parenthèse qui n'a littéralement rien à voir avec les 2 Amériques de Trump. C'est vraiment des gages que Netflix continue de vouloir donner aux cinéphiles français, puisque là en plus ça a été une réalité. Je crois que ce serait très intéressant de regarder si Netflix a vraiment beaucoup monté en France pendant le confinement, mais c'est vrai que aussi il y a eu, comme c'est le cas pour la librairie, un retour de désir pour ce qu'on appelle le cinéma de fond. Et effectivement, c'est les gages que semble donner Netflix. Je pense que c'est pas très cher payé. C'est une des vraies questions qui se posent. On a très peu d'informations sur.
Mais symboliquement, avoir Godard sur Netflix et avec avec quand même Le Mépris, À bout de souffle, Alphaville. Et le moins connu, Détective.
Détective, même... et là c'est vraiment un gage de regarder les gars, on est pointu.
Voilà, mais... Détective, il faut le voir.
C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il ne recrute pas de nouveaux abonnés avec Godard. En revanche, pouvoir mettre afficher d'avoir les Truffaut et les Godard, ça permet effectivement qu'il n'y ait pas de désabonnement, parce que ça fait très très chic d'avoir Netflix et de pouvoir regarder Godard, même s'il ne le regarde pas. Souvenez-vous que Canal+, à l'époque, quand il faisait un bouquet, il mettait la BBC pour que les familles puissent regarder la BBC. Mais jamais il ne l'a regardé, il a regardé TF1. Donc Godard, c'est de l'affichage.
Voilà, il y a aussi 8 femmes de François Ozon. Et puis sur Amazon, il y a un cycle Varda, Agnès Varda, comme quoi, voilà, face à Disney+, et à Netflix, la France, elle, annonce, on l'a dit tout à l'heure, Salto pour septembre. On l'a dit, ils ont peur. Hein. Disney, Netflix et nos amis de HBO sont terrorisés à l'idée que Salto arrive bientôt en France. On termine très brièvement, Emmanuel Paquette, par quelques entrées en bourse qu'on annonce du côté américain, puisqu'on parle de l'Amérique. Je dirais qui gagne, en l'occurrence.
Oui, alors des grosses introductions en bourse effectivement qui sont attendues. Alors aux États-Unis, Airbnb, hein, le spécialiste de l'hébergement, alors qu'ils ont connu en plus plutôt des mois difficiles avec le confinement, avec les gens qui ne voyagent plus et qui ne vont plus chez l'habitant. Donc on va voir ce que ça va donner, on va voir les chiffres aussi hein, d'Airbnb, on va un peu avoir la vérité des chiffres. À côté de ça, Palantir, qui est une société un peu plus secrète, alors là qui a été financée par Peter Thiel, un proche de Trump, qui a fait la première campagne. Là, il reste un peu à distance sur cette deuxième campagne. Et Palantir, c'est un système en fait qui prend les données, qui permet de visualiser les données. Alors, la légende veut que ça soit grâce à Palantir qu'on ait retrouvé Oussama Ben Laden et que la CIA ait réussi à le localiser. Donc, ce qui ne reste que du domaine de la légende. Et aujourd'hui, elle travaille notamment avec la DGSI en France pour l'aider dans la lutte antiterroriste. Donc, c'est une entreprise qui travaille aussi avec des entreprises, des grandes entreprises françaises, notamment Airbus. Et ce qu'on découvre dans les comptes, alors là, pour la souveraineté française, ça met un peu un coup, c'est que derrière les États-Unis et le Royaume-Uni, le troisième pays pour pas mentir, avec 10% du chiffre d'affaires, c'est la France.
Oui.
Ce qu'on découvre, surtout dans les comptes, c'est que derrière le fantasme de Palantir, c'est quand même une...
Ils gagnent pas d'argent.
Ils gagnent. Non, ils en perdent énormément.
Ils en perdent énormément.
Ils gagnent très très peu d'argent. Ils gagnent 700 millions de chiffre d'affaires.
C'est l'Amérique qui gagne.
750 millions de chiffre d'affaires. Ils en perdent 561 millions de pertes. C'est qu'en fait, derrière le fantasme, c'est une bulle. Il n'y a pas grand-chose.
Bien, ben merci à tous. Pardon d'être de décourter un peu cette conversation, mais nous sommes assez en retard. Merci à nos invités, Enguerrand Renaud du Figaro, Emmanuel Paquet de L'Express. Merci à vous, Zoé Sfez. Merci à Mathieu Magnodex, Génération Ocasio-Cortez, le titre de votre livre, et à Grégory Phillips, envoyé spécial permanent de Radio France pour ces sujets concernant les États-Unis. Et maintenant, dernière chronique de cette émission, dernier segment de cette émission, le village global.
Soft Power, le village global.
Le village global, un nouveau segment international centré sur les débats d'idées et la culture. Et ce soir, notre invité est à cheval. Sa jument s'appelle Destinada. Il est en direct par téléphone avec nous. Gaspard Koenig est philosophe et écrivain, fondateur du think tank Génération Libre. Et il a décidé de refaire à travers l'Europe le voyage de Montaigne à cheval. Ça me rappelle d'ailleurs un livre de Jean Lacouture qui s'appelait Montaigne à cheval. Bonsoir Gaspard Koenig.
Bonsoir Frédéric.
Ça va, ça marche ? Je devrais dire ça galope ?
Alors ça galope plus du tout parce que ma jument a un abcès, donc je passe mon temps à lui faire des cataplasmes, à lui faire des piqûres intramusculaires pour lui donner des antibiotiques et à attendre qu'elle soit mieux pour repartir. Ça fait exactement partie des aléas du voyage à cheval.
Alors comment vous est venue justement l'idée de ce voyage ? Quels sont ses objectifs, hein, les promesses de votre périple ?
L'idée m'est venue lors du précédent voyage dont nous avions parlé dans votre émission, celui sur l'intelligence artificielle, que la conclusion de tout ce périple, c'est quand même que les algorithmes tels qu'ils sont utilisés commercialement aujourd'hui fabriquent une société très standardisée, très manipulable. Et j'avais envie de faire un voyage qui soit exactement l'inverse de ce que j'avais vu sur l'intelligence artificielle, c'est-à-dire un voyage proche de chez moi, mais un voyage très lent. Un voyage en profondeur, un voyage qui laisse toute sa part au hasard, parce que si vous tapez « voyage cheval-montagne », étape sur Google, il n'y a rien qui sort, donc il faut se débrouiller, improviser, parler aux gens, obtenir des choses qui ne sont pas du domaine du transactionnel, où il n'y a pas d'étoiles, inspirer la confiance sans avoir une notation sur un réseau social, parce que là c'est les yeux dans les yeux, et se débrouiller, parce que comme la société n'est plus du tout faite pour le voyage à cheval, naturellement, du coup on est hors normes, hors loi, d'ailleurs rien n'est imposé, pas de permis, pas de ceinture de sécurité évidemment, pas d'assurance. On fait ce qu'on veut et il faut compter sur la générosité des gens pour qu'ils vous accueillent, qu'ils vous trouvent un bout de pré, un box, quelque chose. Et ça, c'est quand même une expérience humaine, dira-t-on, mais qui est un peu l'expérience que je cherchais Montaigne dans son propre voyage, évidemment dans d'autres conditions.
Combien va durer votre voyage ? Quand est-ce que vous rentrerez à Paris ?
Quand faut-il que je rentre ? Mais pour le moment, j'en suis à une bonne moitié. Donc j'ai traversé la France en partant de chez Montaigne, de sa tour à Saint-Michel-de-Montaigne, en remontant le Périgord, puis la diagonale du Vil, Limousin, Creuse, Loire, jusqu'à la région parisienne, et puis j'ai bifurqué vers l'Est, comme avait fait Montaigne, qui allait prendre les bains et rencontrer des protestants. Et donc j'ai été jusqu'à Plombières, où je me suis arrêté. Et ensuite, je me trouve maintenant dans les Vosges. Et là, je fais une pause forcée, parce que ma jument est un peu fatigué. Vous savez que pour aller loin, il faut ménager sa monture, Dieu sait que je l'aménage. Mais c'est compliqué avec un seul cheval. À son époque, Montaigne, il changeait de cheval tous les soirs dans les relais. Et puis, on noue un rapport, évidemment, avec un animal. Ça se crée peu à peu. Et ensuite, normalement, je repars en Bavière, ma maille. Et ensuite, en Italie, par le nord, jusqu'à Rome, en traversant les Apennins.
Quelle était la raison du voyage de Montaigne à l'époque, les motifs de son voyage à cheval à travers l'Europe ?
Alors, pour être très honnête, si on reprend la description qu'il en fait dans les essais cette fois, il dit d'abord fuir ma famille, fuir mon foyer, et plus largement fuir ce qu'il appelle les épines domestiques, tout laisser derrière soi. Naturellement pas mon cas, mais enfin il était assez honnête sur le sujet. La deuxième raison qui se rapproche plus de la mienne, c'était de vadrouiller un peu dans l'Europe déchirée de son temps. Vous voyez que c'était le 16e siècle, c'était une époque très agitée, très compliquée, avec des guerres civiles, et puis des virus, la peste en l'occurrence. Et Montaigne avait envie d'aller voir ce qui se passait. Et notamment, il a été, je le disais, beaucoup en Allemagne. Il a commencé par Mulhouse, c'est là que se trouvaient les premiers protestants. C'était la première ville réformée. J'y étais aujourd'hui, d'ailleurs, sur le même thème, parce que j'ai rencontré les autorités religieuses. Alors aujourd'hui, il faut un peu se moderniser. Donc j'ai rencontré les protestants, les catholiques, mais aussi les musulmans, et les évangéliques et les juifs. Vous voyez, j'essaye de garder l'esprit du voyage, mais évidemment en transposant notre époque. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que Montaigne, c'est un philosophe du cheminement. C'est quelqu'un pour qui le moyen compte beaucoup plus que le but, et le parcours compte plus que la destination ou la finalité. Ça se voit dans son écriture, Perso et Gambade, mais ça se voit aussi dans la manière dont il organise son itinéraire, puisqu'il fait constamment des détours, il revient sur ses pas, il énerve considérablement ses compagnons en s'arrêtant, en repartant. Le but, c'est vraiment de profiter du voyage. C'est un vrai voyage, c'est pas un voyage pour aller quelque part, c'est un voyage pour faire un voyage, et on a du mal finalement avec cette notion aujourd'hui où on calcule nos arrivées de manière aussi de manière très millimétrée, ce que j'ai fait dans tout mon voyage sur l'IA, on sait à quelle heure on arrive à Tel Aviv, à quel hôtel on va aller, à quel taxi va vous emporter où. Alors que là il faut s'obliger quelque part à prendre son temps, c'est pas simplement aller plus doucement, c'est être capable de s'arrêter, de saisir une opportunité, de faire marche arrière, de changer son programme. Changer son programme, surtout, c'est ça qui est important.
Gaspard Koenig, que tirez-vous déjà de cette expérience? Ce sera un livre, n'est-ce pas? Est-ce au fond un voyage en soi et pour vous-même, expérimenter une vie plus lente et un contact de plus grande proximité avec les habitants? Ou allez-vous en tirer un récit plus méditatif et peut-être moins technique que votre dernier ouvrage d'ailleurs sur l'intelligence artificielle?
Méditatif pour moi, sans doute. C'est vrai que c'est un exercice de dépouillement parce qu'on voyage avec très peu. Mais pour moi, c'est aussi un projet quelque part politique. L'idée n'est pas de prendre les chemins noirs comme d'autres, c'est-à-dire de s'éloigner de la modernité, de n'emprunter que les sentiers de terre. Au contraire, avec ma jument, je vais partout, je vais dans les centres-villes, je vais dans les zones commerciales. Je vais au contact de la modernité et tous les soirs ou presque, je suis accueilli chez l'habitant. Donc le cheval est un moyen de communication extraordinaire parce que je suis accueilli comme cavalier, pas comme écrivain, ni comme journaliste, ni encore moins comme philosophe. Et donc du coup, la relation est immédiate, elle est facile, elle est rapide. Et je traverse un incroyable panel de sociologie, de famille, de vie en France, et dans la France qu'on a tort périphérique, parce que les gens que je rencontre se considèrent tous sauf périphériques, ils ont des vies comme chacun, et ils sont ni oubliés, ni défavorisés, ni simplement ils s'organisent, différemment certes, mais et donc du coup j'ai l'impression d'avoir quand même un récit beaucoup plus sans filtre, si vous voulez, de la France, que je connaissais bien du point de vue institutionnel, mais en fait que je connaissais assez peu en chair et en os. Et puis il y a des choses qui apparaissent, des thèmes qui apparaissent, des thèmes qui sont des thèmes politiques. Le premier, c'est que justement, on ne parle jamais de politique. En 2 mois et demi, je n'ai pas entendu une seule fois le nom du président de la République, qui nous obsède tellement à Paris. En revanche, j'ai entendu d'autres choses. D'abord, un attachement incroyable aux identités régionales. Les gens sont de leur territoire, et ce territoire, c'est le territoire en fait de l'Ancien Régime. Très révolutionnaire, c'est des territoires qui existent encore en toute leur spécificité culinaire, linguistique, culturelle. Et puis il y a une sorte de frustration extraordinaire parce qu'elle est complètement transversale à toutes les activités, toutes les professions, tous les types de vie par rapport aux normes et par rapport à la surréglementation. Et on sent que si rien n'est fait là-dessus, le pays va comme un cheval s'ébrouer. Pour pouvoir avancer simplement. Il y avait tellement de gens qui bossent, qui ont des activités qu'ils font bien, saines, et qui se trouvent en proie à des conflits administratifs totalement absurdes. Je pense que s'il y avait un programme à faire en France, ce serait simplement simplifier. Et puis pour les grands plans de transformation, on verra plus tard.
Merci infiniment Gaspard Koenig par téléphone depuis son voyage donc à travers l'Europe. Merci Gaspard et bon rétablissement à Destinada, donc votre jument, votre cheval.